en ce samedi matin. Je suis Guido Suarez, je suis donc chercheur à l'IFRI. Ma collègue se présentera juste après moi, on va discuter ce panel qu'on a un petit peu, qui nous a laissé un petit peu. C'était un peu difficile de voir au départ la cohérence des quatre papiers. Et donc, on propose, au lieu de parler de dynamique urbaine et d'environnement, plutôt de parler des dynamiques des sociétés urbaines, de leur complexité. Et ça fait beaucoup plus sens. Donc, on va écouter théoriquement quatre interventions qui sont très différentes, mais qui ont vraiment ce cadre citadin pour Lyon, et vous allez voir un petit peu quelles sont les innovations et les inventions qui peuvent avoir lieu dans ce cadre urbain, et dont le cadre urbain est à la fois le lieu et aussi un acteur à part entière. Donc on va commencer avec, je vais vous laisser vous présenter les quatre intervenantes.
Donc je suis Fabienne Bazola, je suis historienne en histoire contemporaine, en histoire du sud-ouest de l'océan Indien. Et voilà, donc pour commencer notre atelier, nous allons écouter Alda Bachi Camille, qui est sociologue. C'est des fois, mais je vais juste vous présenter. Donc Camille, qui est sociologue à l'école des hautes études en sciences sociales et à l'IRIS, et qui est actuellement à Terre, à Reims. Elle est en phase de rédaction, on peut penser, disons, une bonne année de rédaction, et sa thèse porte sur le gouvernement municipal en situation postcoloniale, l'histoire et l'actualité de la coproduction transnationale d'une échelle de gouvernement, une étude de cas à Diego Suarez, capitale du nord de Madagascar. Alors, nous demanderons à chaque intervenant de parler une quinzaine de minutes, ça va être difficile, je sais. Bon, une petite tolérance, mais pas trop quand même. Voilà, et nous avons convenu avec Hélène Clément Suarez de faire la discussion seulement à la fin de toutes les interventions. Il y a Camille, donc.
Donc, je travaille comme directrice par rapport à ma thèse sur le gouvernement municipal postcolonial en situation développementiste. Et les éléments que je vais présenter aujourd'hui visent à illustrer comment j'ai reconstruit ma problématique et comment je mets en œuvre ma méthodologie. Je travaille sur la formation du pouvoir communal à partir du cas de Diego Suarez, qui est la capitale régionale du nord de Madagascar, la pointe nord. Et mon parti pris, c'est celui d'aborder le rôle joué dans cette formation, historiquement et actuellement, par les interventions transnationales dites de développement, qu'elles soient coloniales ou postcoloniales. J'adopte une perspective constructiviste de l'échelle. Et je me place dans le sillage des travaux de Balandier ou sur la situation coloniale, ou de Gluckman sur la communauté Zoulou-Blanche. Autrement dit, je considère la formation du gouvernement communal comme une coproduction transnationale. Et j'étudie comment des acteurs locaux ou supralocaux, malgaches ou étrangers, visent l'échelle communale et en font l'enjeu de leurs interactions, et ainsi coproduisent cette échelle de gouvernement. Ici, je vais prendre l'exemple de politique publique et d'intervention de l'international en matière de gestion de l'eau, et je travaille depuis la fondation de Gilo Suarez à la fin du 19e siècle. Ces politiques publiques ou ces interventions me permettent d'explorer les normes, les représentations et les pratiques du gouvernement communal qui sont projetées ou mobilisées par développeurs français ou étrangers, plus largement, ou malgaches. Et je remonte comme ça des chaînes d'interaction qui vont des échelles locales aux échelles nationales et globales, et en enquêtant sur les savoirs et les décisions qui sont prises et qui configurent ces interventions locales de développement urbain. Juste une petite parenthèse avant que... C'est pas trop distordu, ça va. D'aborder la question du global dans le local à Diego Suarez, dire rapidement que Diego Suarez, c'est un archétype de ville coloniale qui a été développé par les Français ex nihilo et autour d'une base militaire portuaire. Et la construction de cette ville a inauguré des dynamiques de migration. générations qui ont toujours cours et qui ont vu s'installer pour des périodes plus ou moins longues des gens de toute l'île de Madagascar, des îles voisines de la Réunion des Comores, d'Inde, de Chine, d'Afrique, d'Italie, du Moyen-Orient, de France évidemment, d'Afrique du Nord. Et deuxième précision, autant dans l'entre-deux-guerres, le port n'était déjà plus le premier port malgache en termes d'activité, mais autant l'économie de la ville est encore très largement tributaire de son activité à ce port, et plus largement tributaire d'activités qui reposent sur les échanges avec l'étranger, que ce soit le tourisme, la retraite des vieux blancs, le tour, enfin voilà. Voilà. En résumé, c'est schématiquement une ville historiquement surconnectée. Voilà. En matière d'approvisionnement en eau potable, aux différentes périodes de l'histoire de l'État malgache correspondent des modes spécifiques de collaboration entre acteurs, d'articulation de moyens et de logique, ou d'enchâssement d'enjeux et d'échelles globales, nationales, locales. Et l'intérêt pour moi, c'est d'arriver à repérer des continuités et des ruptures s'il y en est. Je passe assez rapidement sur l'époque coloniale et la Première République. Post-indépendance, mais évidemment il y a un intérêt évident à y repérer ses intérêts et ses continuités. En schématisant un peu, je dirais qu'il y a une rupture, c'est que à la faveur de la loi cadre de fer en 56 et de l'indépendance en 60, il y a eu des réformes de décentralisation qui ont politiquement renforcé les communes. Je fais une mini parenthèse décentralisation, disons que à Madagascar, dans la continuité du royaume malgache et de l'état colonial, la question des centralisations se pose à deux échelles. En haut de l'échelle, donc c'est la colonne de droite, il y a des hésitations et des allers-retours entre provinces, il y en aurait 6, et régions, il y en a actuellement 22. Et à l'échelle inférieure des collectivités locales, il y a toujours des allées et venues sur des siècles entre ce que serait des communes et puis des démembrements de communes qui seraient des Fouctanes et des Foukounoules, voilà, pour faire vite, qui sont donc alternativement promus au rang de collectivités de base. Pour préciser encore, sous la Troisième République, donc entre 92 et 2010, seule la commune est effectivement décentralisée. Sur tous ces possibles de décentralisation, seule la commune est effectivement décentralisée. Et précisons encore, la commune de Diego Suarez existe à peu près depuis la fondation de la ville. C'était une des premières communes du pays, sous différentes formes. Voilà. La rupture donc, dont je parlais autour de l'indépendance, fin des années 50, début des années 60, c'est que pour une fois, la commune parvient à faire prévaloir en termes d'eau, hein, je parle d'eau, les besoins de la population. Alors qu'avant, l'État français avait l'État colonial avait orienté et financé les équipements en fonction des intérêts économiques et des intérêts militaires liés au port, enfin la commune réussit à imposer les besoins de la population comme objectif, disons. Et ce qui veut dire que à la fin des années 50, c'est Dominique Bock qui l'établit, l'eau n'était pas distribuée dans l'ensemble de la ville, et pour le village indigène, Tanambo, il y avait, pour 5000 habitants, il y avait 5 bancs de fontaine. Alors ça serait mieux, voilà, si je vous illustrais le développement de la ville. Donc ça c'est la situation de la ville. Vous la voyez sur un promontoire, dans une baie, au cœur d'une baie, et voilà un peu comment le port est au nord, et la population, le peuplement de la ville se fait vers le sud, et donc voilà, les populations, les villages indigènes se sont situés disons globalement au sud de l'étoile que vous voyez. Ce qui m'intéresse, c'est d'insister plus rapidement sur la continuité entre les périodes coloniales et postcoloniales, j'entends postcoloniale au sens chronologique, et dire que depuis qu'elle existe, donc la commune se saisit des problèmes d'approvisionnement en eau potable et tente de déployer une politique locale. Elle est soumise à des contraintes très fortes parce qu'elle dépend étroitement des moyens, des stratégies, des savoirs et des savoir-faire d'autres acteurs et pour beaucoup français. Elle fait donc l'objet d'interventions continues d'acteurs supralocaux, qu'ils soient malgaches ou non malgaches, qui déterminent le cadre légal, qui financent les infrastructures, qui conçoivent les stratégies de construction et d'entretien, de production, de distribution, voilà. Je passe rapidement là-dessus. Et troisième point de continuité, c'est une politique qui reflète l'extranéité et le métissage des logiques à l'œuvre. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès le début de cette politique de l'eau communale, on repère des logiques qui sont toujours à l'œuvre, qui sont évidemment, qui reposent sur des considérations classiques d'hygiénisme colonial, sur une perspective malthusienne et une logique de police de l'eau, c'est-à-dire qu'on s'occupe toujours plus de limiter le gaspillage que d'augmenter la production, qui est depuis le début dans une logique industrielle et commerciale, et qui repose depuis le début sur une logique duale entre un centre moderne où à l'origine étaient les colons, et puis une périphérie indigène jusqu'à maintenant en fait. Et donc à partir des années 60, quand la commune se saisit quand même, réussit à se saisir de cette politique de l'eau, elle poursuit son œuvre modernisatrice d'accès à l'eau à travers un réseau payant et des branchements par foyer. Mais toujours a priori dans ce centre ou dans des marges, mais qui sont des marges avec des populations fonctionnaires ou ouvrières, mais des classes moyennes, disons. Et puis, elle développe parallèlement une politique sociale à sa charge, c'est-à-dire accès gratuit à l'eau des ménages pauvres via des bornes fontaines, dont la gestion, au moins jusqu'au programme dont on va parler ensuite, au moins jusqu'aux années 90, c'est une gestion donc, gratuite, collective et informelle. Voilà, je m'arrête là, parce que sinon j'aurai plus le temps de rien d'autre. Sous la Troisième République, la commune de Diego Suarez se trouve prise dans la tenaille de la transnationalité des politiques publiques. Et on a l'avènement de ce qu'on peut appeler la privatisation communautaire avec Anne Bousquet et Sylvie Jaglin. Comment ça marche cette tenaille? D'une part, on a la Banque mondiale qui, au niveau national, finance par des consultants la réécriture du code de l'eau, et donc qui assène le principe qu'elle a fait sien dans les années 90 de principe idéologique de non-gratuité de l'eau. Et elle érige en modèle provisoire la délégation de services publics à la française, y compris sous sa forme dérivée et atténuée de délégation de gestion des points d'eau à des associatifs ou à des collectifs d'usagers qui sont organisés, l'eau devenant donc payante. Deuxième bout de la tenaille, qui a trois bouts, hein, c'est une tenaille originale, l'Agence française de développement oblige en fait la commune de Diego à respecter ce code de l'eau, et ça devient une conditionnalité pour construire des routes. Il y a un gros financement pour des routes, l'état des rues étant nécessitant qu'on accepte l'argent de l'AFD, et l'AFD dit bah, très bien, on vous paye les routes, mais vous devez respecter le code de l'eau, et vous devez notamment régler vos comptes avec la Dirama, le concessionnaire national et local de l'eau, de production d'eau. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la mémoire de tout le monde à la commune, le fait de régler ses comptes avec la Girama, le fait d'apurer la situation en termes de taxes sur taxes de l'eau, est absolument lié à la conditionnalité de l'AFD. Arrive là-dessus la troisième pince de cette tenaille originale, qui est un programme de coopération de la coopération française, qui s'appelle le programme le PEC. Programme d'appui aux initiatives de quartier, qui n'est pas du tout un programme d'adduction en eau, mais de financement d'équipements socioculturels qui doivent être gérés par des usagers. La demande étant assez forte, ils finissent par accepter de réhabiliter ou de construire des bornes fontaines dans 4 puis 8 fontaines quartiers donc, de la ville. Et en fait, de proche en proche, le PEC devient l'opérateur local de la mise en gestion associative payante prônée par les institutions internationales. En fait, il s'est arrangé de fait une délégation de maîtrise d'ouvrage pour cette politique communale de l'eau, conforme au modèle global, et il gagne progressivement une place légitime dans l'organigramme communal. Le cadre stratégique et philosophique du programme est assez alambiqué et les ambiguïtés ne seront jamais levées. Parce que dans les documents stratégiques, on prétend toujours qu'on travaille sur la décentralisation et sur la réhabilitation de la considération des institutions pour la population et pour refaire le lien entre citoyens et institutions. Dans les faits, ça se trouve être un programme tout à fait société civile où le but, c'est d'autonomiser des habitants, des citoyens, mais des habitants responsables et bons gestionnaires de leurs équipements et du développement local. On ne sortira jamais du flou sur la régulation. Et en fait, avec ce principe d'association des usagers, les promoteurs du PEC ils vont trouver dans le contexte malgache une philosophie politique tout à fait propice à l'ancrage d'une telle philosophie transnationale. Je fais une parenthèse sur... là, il faut se concentrer. Pour les non-malgachisants. Qu'est-ce que ça c'est ce contexte philosophico-anthropologique, c'est qu'on a un concept malgache de Fukunula, qui est la, disons, la communauté sociale de base, et qui en fait est une réalité politique historique et située au sein de Madagascar, mais qui a été essentialisée comme la communauté malgache sociale de base, qu'elle soit urbaine ou qu'elle soit rurale, qu'elle soit dans une région ou dans une autre. Et ça a donné naissance à une philosophie politique et une idéologie nominaliste. Et cette philosophie étaye et justifie à la fois des réformes d'organisation des pouvoirs publics, telles les décentralisations, et à la fois, en réalité, des pratiques sociales et politiques quotidiennes effectives. Voilà. Fukunuluna, ça représente... Donc ça a été institutionnalisé, généralisé à l'échelle de Madagascar, et ça a été territorialisé. Donc le Fukunuluna, c'est la population qui vit sur un Fukuntan. Et le Fukuntan, c'est en milieu rural un village, et en ville, je schématise affreusement, un quartier. Qu'est-ce qui fait le PEC? Il joue sur l'ambiguïté à l'échelle de Fukunuluna, c'est-à-dire l'ambiguïté qui est réelle dans les pratiques quotidiennes et dans le langage des acteurs. Il fait référence tour à tour indistinctement au Fukunuluna comme un petit collectif d'usagers, la population d'un secteur ou d'un quartier, ou bien la population officielle de tout un quartier. Il joue sur l'ambiguïté de son statut. Soit c'est, en réalité, ça peut être un groupe informel d'usagers ou d'usagers potentiels, un collectif d'acteurs. Ou alors c'est un corps citoyen et public. Ou alors c'est, plus largement encore, un ethos politique, c'est l'esprit communautaire malgache. Et évidemment, on occulte toute analyse de la réalité de ce qui s'y joue effectivement en termes de pouvoir. On tient pour acquis que c'est une réalité politique. Voilà, le PEC en gros joue sur un certain nombre de flous et de glissements possibles pour faire un glissement entre les associations de quartier, et les associations de quartier prennent progressivement les caractéristiques de ce Fukunuluna mythifié, irénique, communautaire, infrapolitique, non conflictuel, naturel et évidemment démocratique. Merci. Naturellement démocratique. Et il me semble qu'on voit ici comment se fait l'articulation entre une philosophie et une sociologie politique spécifiquement malgache et puis les attendus globaux de tout projet de développement local dans les années 90. Voilà. Il me semble que c'est un exemple intéressant de comment cet enchâssement entre des logiques d'échelle locale, nationale et globale peut reposer en fait sur des glissements, sur des imprécisions, sur des ambiguïtés. Ce qui se passe, c'est que le PEC, alors qu'il joue clairement les quartiers contre la commune, parce qu'il y a une conflictualité, va se retrouver à être en substitution de la commune, et puis à se communaliser. Je vais vite, mais il se trouve que le PEC se met à reconstruire de plus en plus de bornes fontaines, et donc dans de plus en plus de quartiers, à être cet opérateur de la mise en gestion associative et payante des bornes fontaines. Il se trouve que on a des responsables communaux qui sont préoccupés par l'accès à l'eau et qui sont convaincus par les idéologies globales dominantes. Donc la démocratie participative, cette gestion associative et le fait qu'il faut tout lire en termes de capacité et que eux n'en ont pas des capacités. Donc ils sont convaincus qu'il faut faire de la mobilisation sociale de la population et qu'ils n'en ont pas les moyens. Autrement dit, le PEC arrive comme une solution pour l'investissement, l'argent, et une solution pour cette maîtrise d'œuvre sociale dont la commune ne se croit pas capable. Donc la substitution va de plus en plus, évidemment, avec la pirouette de créer un comité local de l'eau dans lequel la commune est membre. On arrive quand même à la fin de ce programme. Cette substitution saute aux yeux. Il faut pérenniser le programme. Donc on invente que le PEC va devenir un bureau de développement local intégré à la commune. Et on demande à son personnel, voulez-vous devenir salarié communal avec un salaire communal? Alors il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Le coordinateur technique dit non, s'occupe pendant quelques temps de son bureau d'études avec lequel il avait déjà fait les études pour les bornes fontaines, et puis il se met à faire le plan municipal aussi de développement, et puis il n'a jamais caché sa volonté d'être maire, et finalement il deviendra maire. Et deux membres du PEC avaient dès le début accepté d'intégrer la commune, et au sein de la commune, ils vont devenir les très proches collaborateurs du maire. Autant dire que l'intégration a excellemment marché. C'est-à-dire qu'il se trouve qu'à la fin, trois personnes clés de l'équipe du PEC, clés parce que c'était la RAF, et le celui qui s'occupait de la maîtrise d'œuvre sociale, donc le sociologue du programme, et le maire et le coordinateur technique qui se retrouvent à être maire et proches adjoints du maire. Qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans, en dehors des effets de straddling et du fait que le maire a pris des ressources là où elles étaient, il me semble que on a ici une piste pour une sorte d'institutionnalisation des pratiques de courtage comme logique politique, et aussi peut-être une piste pour analyser la division du travail de courtage entre la figure de l'entrepreneur économique et politique, le traducteur des logiques sociales, le fameux sociologue, et puis la comptable. Moi, je remets en cause sur mon cas, à la base de mon cas, l'hypothèse que le type de projet avec comité ad hoc externe et vide le pouvoir communal de ses capacités. Parce qu'il me semble que c'est un exemple où si on étudie concrètement ce qui se passe et les circulations des acteurs sur toute leur carrière, à travers des positions privées, des positions associatives et des positions publiques, qu'elles soient élues ou adjoints et ou administratives, parce que les adjoints à Madagascar ne sont pas élus, il me semble au contraire qu'on ne peut pas considérer que ce sont les ONG ou les programmes qui sont détenteurs de tous les savoirs et qui empêchent les collectivités de prendre des décisions informées. Parce que finalement, la quasi-totalité de mes acteurs se retrouvent au sein d'institutions communales. Voilà, j'approche de ma conclusion. Et par ailleurs, il faut prendre. Ils se retrouvent dans la commune, mais ils se retrouvent pris dans des contradictions et des conflits énormes parce qu'ils appartiennent à des générations et à des aires d'influence partisane très particulières. Donc si on veut travailler sur la. Non pas la capacité, pour comprendre ce terme, mais les dynamiques d'apprentissage institutionnel en situation développementiste, il faut prendre en compte et ces circulations d'acteurs dans leur trajectoire personnelle et les conflictualités internes aux institutions type commune. Voilà, ce que je voulais montrer, c'est comment, un exemple, rapidement, malheureusement, comment des modèles globaux de gouvernement et de services publics s'enchassent dans des contextes locaux par des processus qui peuvent être, dans mon cas, d'approximation, de flou linguistique et même conceptuel et cognitif pour les acteurs, que ces mêmes enchassements doivent être replacés dans un temps, je dirais pas long, parce que ma ville, entre guillemets, ma ville a 120 ans, donc c'est pas du temps long, mais bon. Depuis le début, si on peut, et que les trajectoires et circulation individuelle entre sphère publique, sphère privée et les arrangements institutionnels doivent être pris en compte dès lors qu'on s'intéresse à l'impact des projets de développement sur la manière locale de gouverner. Voilà. Merci. Merci. Votre attention. Ah, je vous ai. Pardon, je reprends la parole pour vous. J'ai oublié mon image. D'une bande fontaine, vous voyez le PAIC, évidemment. PAIQ là-haut. Avec l'association, le nom de l'association, et vous constatez que nulle part cette infrastructure n'est attribuée à la commune, alors qu'elle est communale. Voilà, pardon.
D'accord. Ben, merci, Camille.
On va écouter Émilie Lita qui est docente en anthropologie, de l'oratoire d'ethnologie et de sociologie comparée à Paris-Ouest. Et elle va nous parler d'un sujet qui vient à cœur, que sont la gestion des déchets en milieu urbain au Cameroun.
Alors, je lance le chrono. Voilà. Bonjour à tous. Merci d'être venus à cette heure matinale un samedi. Et puis merci aux discutants d'avoir pris le soin de relire nos papiers. Je vais redire le titre de ma présentation puisqu'on ne le voit pas. Donc c'est la gestion des déchets en milieu urbain africain, un service public comme un autre, par interrogation. Réflexion depuis Garoua et Maroua, donc deux villes au nord du Cameroun. Alors je commencerai rapidement par un constat, je reprendrai un constat qui a été fait depuis les années 80 par les politiques, les acteurs du développement ou encore les médias, qui est celui de la poubellisation des grandes villes du continent africain qui ont été envahies par les déchets des citadins qui sont bien souvent sporadiquement collectés et très rarement retraités. Et c'est à la suite de ce constat, et pressé par l'urgence sanitaire liée au phénomène, que quelques chercheurs encore relativement peu nombreux, dont Hélène Queneau fait partie, ont commencé à étudier les modes de traitement institutionnel et populaire, mais aussi les représentations des déchets et du sale et du propre et de l'ordre ou du désordre qui les sous-tendent, et cela sous différents prismes, que ce soit sous l'angle de la santé et de l'hygiène, de la sociabilité citadine, de la structuration du champ politique local ou encore de la gouvernance urbaine au quotidien. Et c'est dans sous ces deux derniers angles qu'ont été menés, à mon sens, les travaux les plus extensifs dans différentes grandes villes africaines. Il se trouve que c'est un cadre que moi, en tant qu'anthropologue, qui me sert aussi pour analyser une partie des données que j'ai pu collecter lors d'une longue enquête ethnographique qui a été réalisée entre 2007 et 2011 sur les représentations et les modes de gestion des déchets dans deux villes donc au nord du Cameroun, qui sont Garoua et Maroua, et ce donc dans le cadre d'une thèse d'anthropologie. Donc très rapidement, ce sont juste deux villes qui ont été fondées au XIXe siècle par des conquérants peu les musulmans, donc avant la colonisation, et qui aujourd'hui se situent entre 500 000 et 1 million d'habitants. On n'a pas de chiffres plus précis, malheureusement. Et ce sont donc des villes importantes dans le bassin du lac Tchad, qui connaissent également, à partir des années 80, de graves dysfonctionnements dans leurs services municipaux de gestion des déchets. Et ce, jusqu'en 2008, je vais en parler dans un instant. En revanche, il me semble quand même que l'histoire spécifique de la conception de ce qui est déchu dans ce cadre-là, c'est-à-dire les objets, les résidus des activités quotidiennes ou encore les substances corporelles, et l'histoire des modes de gestion de ce déchu dans ces deux villes pose une question importante qui est-ce que ce service municipal, le service public de gestion des déchets, est-il un service comme un autre au sens de l'éclairage, de l'entretien de la voirie, etc., qui peut être exclusivement appréhendé sous l'angle de la gouvernance et avec les théories qui vont avec, les outils théoriques qui vont avec. Et cette question, il me semble, peut être adressée à l'aide d'une seconde optique d'analyse que j'emprunte aux chercheurs du groupe Matière à penser dans le sillage des travaux de Jean-Pierre Varnier, donc qui est celui du rapport entre le corps et la culture matérielle dans la formation des sujets. Notion foucaldienne, très rapidement sujet à la fois comme individu membre d'une société et comme objet d'un régime de gouvernement spécifique. Et c'est, à mon sens, cette deuxième grille d'analyse associée à la première qui va me permettre de saisir dans le temps long comment la gestion des déchets, plus que tout autre service public municipal dans ces deux villes, peut avoir spécifiquement affaire avec le pouvoir, sa définition, son exercice et les individus qu'ils détiennent. Je suis un petit peu en retard sur mon truc. Donc là, je vais prendre une optique un peu radicale pour gagner du temps. C'est que je vais passer relativement vite sur l'aspect gouvernance, puisqu'en fait, moi, dans mes propres analyses, je me contente de retrouver des phénomènes qui ont été très bien décrits par ailleurs sur d'autres villes. Et je vais plutôt prendre du temps pour vous exposer mon approche un peu plus personnelle, qui est cette approche en termes de gouvernementalité. Et pour ce faire, je vais partir d'un proverbe qui est qu'on m'a répété très fréquemment sur mon terrain, mais qu'on entend dans d'autres pays africains, qui est « le grand chef doit être comme le grand tas d'ordures ». Et alors ce proverbe, il reçoit deux exégèses. La première exégèse, qui m'a été la plus souvent fournie, c'est, je cite, « le fait que quand on dit ça, ça sous-entend qu'il faut être responsable de par sa fonction, recevoir tous les problèmes comme un tas d'ordures, sous-entendu de façon patiente, mais aussi sans réagir en retour ». Et il me semble qu'en fait, cette exégèse, elle illustre typiquement les rapports qui ont été entretenus entre les citadins et les autorités des deux villes, mais aussi le mode d'administration de ces autorités, notamment en termes de gestion des déchets, à Garoua et Maroua. C'est-à-dire qu'en gros, les autorités ont reçu pendant presque 30 ans, depuis les années 80, les plaintes des citadins envahis par leurs ordures, certes avec patience, mais aussi sans aucune réaction en retour. Et tout cela, donc oui, dans un contexte de sanitaire qui devient très vite très problématique. Et il faut dire que ce phénomène, il est emblématique de ce qui a pu se produire à la même époque dans d'autres villes africaines et qui a donc été lu, notamment sous l'angle de la gouvernance, comme une véritable crise de la gouvernance dans ces villes, qui est à la fois cause et conséquence des relations conflictuelles entre les institutions municipales et les différentes institutions municipales, entre celles-ci et les citadins, et voire entre les citadins eux-mêmes. Alors cette clé de lecture en termes de gouvernance, elle va permettre de considérer ce service public de la gestion des déchets comme une arène politique où va se jouer quotidiennement des alliances et des confrontations, et cela à travers des stratégies concurrentes de capitalisation économique et d'acquisition de positions de pouvoir et de légitimité politique. Et tout cela va se faire, c'est une des particularités de ce champ, entre de très nombreux acteurs. C'est un champ qui très vite va rassembler aussi bien des acteurs du privé que du public, des associatifs que des institutionnels, des autorités traditionnelles, comme on les appelle là-bas, que des autorités administratives. Et cela va en faire, comme le disent par exemple Dorier et Méné, une gestion des déchets qui devient plus disputée que partagée, puisqu'il n'y a pas vraiment de coordination entre ces acteurs et que ça devient plutôt un objet de compétition. Alors donc, à travers ce prisme de la gouvernance, comme je vous le disais, il y a différents phénomènes politiques assez généraux qui peuvent être analysés, qui à mon sens sont certes révélés par la gestion des déchets, mais ne sont pas propres exclusivement à ce service public, et par ailleurs peuvent être retrouvés donc dans différents contextes urbains africains. Donc là, je vais malheureusement pas les développer, mais je pourrais faire tourner mon papier si jamais vous voulez plus de détails là-dessus. Et aussi la bibliographie qui traite de ces questions. Juste oui, pour les mentionner quand même rapidement, il y a dans l'empilement des instances et des acteurs, comme je vous le disais à l'instant. À côté de ça, le maintien de façon un peu plus transcendante, entre guillemets, d'une mainmise de l'État sur ce système de gestion, et ce, en dépit de la décentralisation qui est censée redistribuer ses compétences aux collectivités locales. À côté de ça, les capacités d'intervention des autorités locales dans ce domaine, elles s'avèrent très, très limitées. Elles causent une perte de crédibilité aux yeux des administrés de ces instances. Et elles se caractérisent donc par une grande inconstance, c'est-à-dire que selon qu'à un moment donné, par manque d'intérêt politique et de moyens, on va complètement délaisser la gestion des déchets, ou au contraire, dans des situations, par exemple, de recherche de légitimité politique, notamment au moment des élections, on va de nouveau y investir pour se faire voir sur le terrain. Et donc le quatrième phénomène qui est vraiment intrinsèque à cette notion de gouvernance, c'est l'idée qu'en fait, à travers tout ça, il y a une grande fluidité des frontières entre les sphères privées et les sphères publiques. Puisque justement, on a des acteurs qui viennent de ces différents domaines, et on a aussi quelque chose qui est là et plus propre à la gestion des déchets, qui est qu'on passe d'un problème à la base quand même privé, que ça soit dans la sphère domestique, et puis aussi parce que ça touche à l'intime, ce sont d'abord des déchets qui émanent de soi et de sa sphère intime, et qu'en fait ensuite on aboutit à un problème collectif, notamment en termes de santé publique, quand les déchets vont s'accumuler dans l'espace. Et toute la question va être de voir comment ça va être transformé en problématique de gouvernement, ou justement pas. Et ce que ça soit du côté des pouvoirs publics, qui peuvent aussi bien mener une politique de négligence, comme le dit par exemple Van der Geest à propos du Ghana, on va délibérément laisser les déchets dans l'espace urbain, mais aussi du côté des citadins qui peuvent parfois considérer l'espace public comme un espace qui appartient à tout le monde, donc à personne, et où du coup ils vont considérer que l'entretien de cet espace ne va pas leur revenir, mais à une entité politique supérieure, assez floue parfois, comme la mairie ou l'État. Alors je vais passer maintenant très vite à plutôt... Je vais opérer un glissement vers la notion de gouvernementalité, puisque justement il y a certains auteurs, notamment Blandot et Lemeur, qui ont entrepris d'associer la première notion, donc la notion de gouvernance, à celle de gouvernementalité pour aborder le champ des services publics municipaux africains au quotidien. Et ils constatent qu'en fait ce glissement peut s'opérer justement à travers cette idée de fluidité entre les sphères privées et publiques. À savoir que la notion de gouvernance, et encore plus la notion de gouvernementalité, permettent de sortir juste de l'analyse strictement institutionnelle et d'aller aussi voir ce qui se passe du côté des phénomènes dont les citadins sont acteurs, et notamment aussi de la sphère privée, justement. Et tout ça est lié à l'idée qui avait été développée par le Foucault que le pouvoir n'est pas détenu par une seule entité supérieure, mais circule dans toute l'épaisseur du tissu social. Et justement, moi, il me semble, en utilisant cette notion et à l'aune de mes données, qu'il est également question de pouvoir dans les façons de concevoir et de manipuler ce qui est déchu à Garoua et à Marois, que c'est un pouvoir qui va s'exercer à travers ce pan particulier de la culture matérielle, donc cet état particulier de la culture matérielle, que ce pouvoir va être exercé sur leur corps par les individus eux-mêmes, mais qui vont aussi l'exercer sur les autres, sur le corps des autres, pour mieux négocier leur place et imposer une forme de domination. Et ce, à différentes échelles. C'est-à-dire que ça peut être très bien, effectivement, une entité supérieure, comme le chef d'un royaume au XVIIIe siècle, comme je vais vous le dire dans un instant, ou un maire, etc. Mais ça peut être aussi un chef de famille au sein de sa concession, quelqu'un à l'échelle de sa rue, de son quartier, etc. Et bien sûr, ce pouvoir, il est exercé en reproduisant des injonctions qui sont incorporées depuis l'enfance et qui sont quand même issues d'un modèle qui émane des sphères dirigeantes politiques, économiques, intellectuelles ou encore religieuses qui vont être successivement à la tête de la ville. Alors donc, je ne me développe pas, mais bien sûr, derrière tout ça, il y a les notions importantes de technique du corps développées par Mauss et de technique de soi développées par Foucault. Donc, j'en reviens à mon proverbe et à la deuxième exégèse qui peut en être faite. Donc, le grand chef doit être comme le grand tas d'ordures. Et une autre exégèse qui est présentée comme issue d'un registre ésotérique musulman, donc comme plus profonde, qui avance, je cite, que ce n'est pas seulement une affaire de patience, quand on dit ça, c'est une couverture. En fait, l'idée, c'est aussi que le chef doit être fort comme le grand tas d'ordures. Et justement, il me semble bien que cette deuxième exégèse, elle révèle cette idée de gouvernementalité particulière de l'ordure qui va s'adresser au corps des citadins de Garoua et Marois et aux détenteurs successifs du pouvoir par certaines techniques de soi qui ont pour objet les déchets et notamment leur accumulation en grand tas d'ordures. Et en fait, pour modalité, et ça c'est important, tantôt l'identification avec ces accumulations de déchets et l'incorporation avec ces accumulations, ou au contraire l'injonction à la rupture avec celles-ci, c'est-à-dire à les expulser de sa synthèse corporelle et aussi à les sortir de son identité, à les rendre anonymes. Alors, les deux idées importantes qui sont sous-jacentes, hop là, je vais un peu vite, à cette gouvernementalité de l'ordure, qui donc se construit bien sûr historiquement à partir de différents référents locaux, mais aussi d'influences extérieures qui vont se combiner. Donc l'idée importante derrière, c'est qu'il y a la conception d'un lien étroit et irréductible, physique et symbolique, entre les individus, les résidus de leur corps, de leurs activités quotidiennes et leurs possessions matérielles. Il y a une difficulté, et qu'on retrouve sous différentes formes, qui évolue bien sûr tout au long de l'histoire, à sortir ces choses de sa synthèse corporelle et à les rendre anonymes. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément important de cette gouvernementalité, c'est qu'à partir de là, la matière détritique restante, c'est-à-dire qu'une fois que tout a été récupéré, réutilisé, parce qu'il y a énormément de choses qui sont récupérées, et ça participe de cette difficulté à se détacher de ça, cette matière détritique restante qui va être accumulée, elle va être conçue comme dégageant différents types de forces ambivalentes. Et alors là, selon les époques, ça va être des forces pensées selon différents registres. C'est-à-dire que ça peut être en termes d'engrais, par exemple, d'enrichissement des sols, une force génésique. Ça peut être en termes sanitaires, selon un registre hygiéniste pasteurien, c'est-à-dire comme source de maladies, etc. Ça peut être aussi en termes magico-religieux, c'est-à-dire comme des forces qui vont à la fois émaner de l'accumulation de déchets, mais aussi des entités invisibles qu'on appelle génies, en français local, hein, très rapidement, qui vont venir élire domicile dans ces accumulations. Et à côté de ça, ces accumulations, puis ensuite les dispositifs techniques de collecte qui vont les remplacer assez récemment à partir de 2008, vont être considérés aussi selon les époques, soit comme l'expression de la richesse d'une famille ou d'un groupe, ou au contraire comme un stigmate de pauvreté, ou elles vont osciller aussi dans le temps, soit entre signes de l'appropriation ancienne d'un espace, ou au contraire comme la marque de l'abandon de cet espace ou de l'incapacité de ses propriétaires à l'entretenir. Donc pour finir maintenant très vite, je vais vous présenter un peu plus concrètement comment toute cette gouvernementalité évolue à travers l'histoire à Garoua et Marois. Et en fait, mes données m'ont permis de repartir assez loin dans le temps, puisque il s'avère que avant la conquête Peul existait notamment sur le site de Marois, de grands royaumes tchadiques. Jusqu'au XVIIIe siècle. Dans ces royaumes, une pratique avait été développée par les chefs qui était d'exposer leurs déchets en grand tas d'ordures de façon ostentatoire devant leurs concessions. L'idée étant de symboliser à la fois l'ancienneté sur le sol de la chefferie et la richesse de ses leaders successifs en biens et en hommes. Ça, c'était la première idée. L'autre idée sous-jacente, c'est que ces tas d'ordures représentaient une des sources du pouvoir de ces chefs et de ces chefferies, notamment par la force qui était dégagée par ces accumulations de déchets et par les entités qui venaient y résider. Et en fait, à partir de là, les chefs successifs pouvaient instrumentaliser ces forces pour protéger le royaume, assurer sa pérennité, sa prospérité, etc. Et tout ça se jouait dans une logique donc d'identification avec ces grands tas d'ordures, qui étaient vraiment des emblèmes, et d'incorporation du tas d'ordures par le chef. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais il y avait un ensemble de rituels qui permettaient cela. Donc ensuite, et donc là sur la photo, on voit que ce grand tas d'ordures existe toujours aujourd'hui. Là, on le voit encore devant une chefferie. Donc après intervient la conquête peul musulmane au début du XIXe siècle. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en dépit de conceptions similaires à celles qui prévalaient avant dans les grands royaumes tchadiques, les pouvoirs peul vont instaurer une rupture, officiellement en tout cas très très forte, avec les façons, avec les techniques de soie associées aux déchets. C'est-à-dire que là, au lieu de les exposer, il va falloir au contraire les dissimuler au sein des concessions. Cela étant déterminé à la fois par une éthique peul, donc on appelle poulaku, de la pudeur et de la dissimulation des besoins corporels, et aussi bien sûr par la valorisation par l'islam de la pureté et de la propreté. Il y a aussi derrière, très rapidement, toujours une crainte qui était déjà présente dans les royaumes d'avant, que les déchets qu'on va jeter à l'extérieur soient récupérés à des fins de sorcellerie. Ce pourquoi aussi on va les conserver à l'intérieur de sa maison, surtout quand on est un chef. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à cette époque, cette injonction, elle est suivable dans ce contexte urbain qui se développe. Elle peut être suivie par les élites citadines islamopoles qui ont encore de l'espace, des grandes concessions, etc. Mais très vite, avec la densification du bâti, ça devient très difficile pour les citadins lambda, et notamment les catégories les plus inférieures, on va dire, qui sont les populations esclaves, puisque c'est une société qui se fonde majoritairement sur l'esclavage. Il devient impossible d'assurer cette conservation à l'intérieur de chez eux. Et du coup, les élites islamopoles vont développer toute une rhétorique où ils vont valoriser la capacité à cacher ses déchets et à en tenir une propreté très stricte de ces espaces de vie comme un signe de supériorité qui va légitimer leur domination sur justement toutes ces autres populations et a fortiori les populations qu'ils utilisent comme esclaves. Donc intervient ensuite la colonisation. Début du 20e. Alors là, finalement, au terme de gestion effective, il y a peu de choses qui sont modifiées, puisqu'on est quand même dans des villes secondaires par rapport au Cameroun. Il y a une population d'administrateurs coloniaux assez réduite. Et l'administration coloniale va laisser la main dans la gestion des déchets aux autorités traditionnelles. En revanche, ce qui est quand même important à cette époque, c'est que c'est la période où est introduit le registre de hygiéniste pasteurien dans la façon de penser les déchets, et que ce registre il va renforcer l'injonction à la désincorporation et la désidentification avec les déchets qui avait déjà été introduite par le contexte peul. Là où c'est encore plus difficile pour les citadins à cette époque, c'est que pour eux, là, désormais, ce nouveau registre ne prône plus qu'on dissimule les déchets chez soi, mais qu'au contraire, on les évacue le plus loin possible des espaces de vie. Et dans un cas comme dans l'autre, c'est difficile dans un espace très bâti. Et donc, ça va devenir une source nouvelle d'angoisse pour les citadins de vivre dans la proximité de ces tas d'ordures qui sont vues comme des sources de maladies, etc., mais aussi toujours comme des lieux où résident des entités qui sont ambivalentes et potentiellement dangereuses, surtout qu'elles ne sont pas contrôlées par les chefs. Alors, il y a quand même à la fin des années 50 un service des services d'hygiène et un embryon de service de collecte qui est mis en place par les autorités coloniales et qui est ensuite largement développé dans les des villes, notamment à Garoua, qui est alors la ville du premier président camerounais et qui est vue comme la vitrine de la modernité camerounaise. Cependant, à partir des années 80, comme je vous le disais, à cause de la crise qui sévit sur tout le Cameroun, le système de gestion des déchets va se dégrader. Jusqu'à ce qu'on ait une invasion complète des espaces urbains, que la collecte s'arrête et qu'on ait une invasion totale des espaces urbains par l'état d'ordure, comme on le voit sur cette photo à Garoua. Et ce, jusqu'en 2008. C'est-à-dire qu'il y a presque 30 ans, il n'y a quasiment pas de collecte. Et en 2008, et je finirai par ça, excusez ma conclusion, une société privée est envoyée par l'état camerounais pour assurer à nouveau la collecte des déchets dans les deux villes. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on revient à une logique de valorisation, non plus des déchets, mais des dispositifs de collecte, comme emblème de pouvoir et de capacité à gérer la ville de façon moderne et scientifique, pour reprendre une expression qui m'avait été donnée là-bas. Et ça va donner lieu, du coup, à tout un ensemble de compétitions entre les différentes instances politiques locales, pour notamment voir leurs espaces de juridiction, comme leur arrondissement, nettoyer en premier, et surtout obtenir des bennes à ordures, qui vont être justement un symbole effectif de leur capacité à gérer à nouveau la ville. Et en phrase de conclusion, je dirais tout simplement qu'il me semble, à partir de cette analyse et de la mobilisation de ces deux grilles, donc, qui sont gouvernance et gouvernementalité, que les services publics de gestion des déchets est éminemment plus politique peut-être que d'autres services publics, non seulement par son statut de service public, mais aussi par les matières auxquelles ils s'adressent, qui sont elles-mêmes en prise avec le pouvoir sur les corps, la culture matérielle, etc. Merci de m'avoir laissé finir. Non, c'est normal.
Nous sommes tenus à part le temps.
Non, c'est normal. Oui, bien sûr.
Alors, je ne sais pas, enfin, je vais vous donner la parole.
Est-ce que tu veux venir ici? J'ai une place pour passer.
Ce sera plus rapide.
Je vois qu'il va pas marcher. Ouais, mais je sais pas si c'est compatible.
Donc, le temps que la salle, cette fois, la parole est à Julie Lefort, qui est doctorante en sociologie à l'université de Montréal. Et qui fait partie d'un groupe de recherche, en particulier comité national de l'écologie et des sciences, qui explique son intervention autour des dynamiques. En fait, ça reste porte sur les dynamiques de changement des modèles alimentaires. L'exemple de Dakar dans la transition poisson aux produits laitiers. Il me semble bien qu'elle parle beaucoup du poisson, du changement au niveau de l'alimentation de poisson. Et Julie Lefort est en deuxième année de thèse. Donc, ce qu'elle nous donne là, c'est vraiment les tout débuts de ses investigations.
Merci.
Vous avez une quinzaine de minutes avec quelques minutes de réflexion.
Merci beaucoup. Excusez-moi pour le retard, hein, je suis un peu perdue en arrivant. Donc effectivement, je travaille sur un sujet un petit peu plus large que ce dont je vais vous parler. Moi, je travaille sur les dynamiques de changement des modèles alimentaires à Dakar. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'innovation alimentaire, toujours à Dakar. Je voulais commencer par replacer un petit peu le contexte. Donc Dakar... Dakar est le point le plus à l'ouest de l'Afrique et c'est la capitale du Sénégal. Et donc ces deux particularités lui confèrent un statut particulier et surtout fait d'elle une ville très ouverte sur l'extérieur. Donc son port est très actif, elle a énormément de contacts avec l'extérieur et donc ça lui confère une certaine complexité. Et c'est cette complexité qui, à mes yeux, rend intéressant l'étude des modèles alimentaires pour comprendre les dynamiques sociales de la ville. Bon, aujourd'hui, je vais plutôt m'intéresser à, en fait, prendre le problème dans le sens inverse, c'est-à-dire que je vais plutôt regarder les changements dans l'environnement pour comprendre les changements dans les modèles alimentaires. Donc c'est deux façons d'aborder les choses. Dans ma recherche en général, je vais essayer de faire les deux. Ici, ça sera plutôt le deuxième. Je profite de l'introduction pour définir le terme des modèles alimentaires. Donc pour moi, c'est un ensemble de règles socialement définies qui fonctionnent dans l'avant de soi et qui fixent le choix des aliments, les interactions entre acteurs de la filière, les modes de préparation culinaire, les formes de consommation et puis les rythmes alimentaires. Ils peuvent être considérés finalement comme l'articulation du culturel et du naturel, et c'est un peu la mise en scène des valeurs d'une culture et le résultat des contraintes matérielles du milieu. Ils permettent donc aux mangeurs d'articuler les différentes dimensions de l'alimentation, que ce soit hédonique, nutritionnelle, commensale ou symbolique. Et ainsi, ils facilitent la prise de décision alimentaire. Bon, c'est une définition qui s'appuie sur la définition de Jean-Pierre Poulain. Voilà pour, pour poser les termes du titre, en fait. Et donc, le travail que je vais vous présenter ici repose sur le travail exploratoire que j'ai pu effectuer en 2010 à Dakar et au cours duquel j'ai effectué 22 entretiens individuels et 15 carnets alimentaires, relevés de carnets alimentaires sur 7 jours, ainsi que des entretiens d'experts. Je vais commencer par vous parler de l'innovation d'un point de vue un petit peu théorique pour poser le sujet. Ensuite, des déterminants à la fois locaux et globaux qui provoquent ces innovations. Et enfin, je terminerai par les premiers résultats de ce terrain exploratoire. Donc l'innovation, je me suis basée sur la définition de Jean-Pierre-Olivier de Sardan dans Anthropologie et Développement, qui dit que l'innovation, c'est toute grève de techniques, de savoirs ou de modes d'organisation inédits, en général sous forme d'adaptation locale à partir d'emprunts ou d'importations, sur des techniques, savoirs et modes d'organisation en place. Et à ça, j'ai ajouté une petite nuance que j'ai tirée de la définition que Norbert Alter donne, lui, de l'innovation. Donc pour lui, il définit l'invention et il dit qu'une invention devient innovation uniquement à partir du moment où elle est acceptée et diffusée par les acteurs. Enfin, diffusée et acceptée par les acteurs. Donc je prends ces deux composantes pour m'approprier la définition de l'innovation. Et on voit bien avec ces définitions que ça peut s'appliquer à l'alimentation, mais ça, j'y reviendrai dans la suite. Donc avant de s'intéresser plus particulièrement à l'alimentation, je vais d'abord vous parler du lien entre innovation et changement social, innovation tradition, innovation patrimoine. Donc l'innovation et le changement social, alors toujours Olivier de Sardan, il précise bien qu'à ses yeux, une innovation, elle n'intervient pas auprès d'individus atomisés, mais elle intervient vraiment sur un système social. Donc du coup, le devenir des innovations est très lié au contexte social, politique, économique, etc. Et donc, on voit bien dans ce cas-là que le lien entre innovation et changement social, quand il y a un changement social, ça peut provoquer des innovations. Et puis, d'un autre côté, les innovations peuvent elles-mêmes provoquer des changements sociaux. C'est-à-dire que, par exemple, au Sénégal, puisque c'est mon terrain, il y a eu les industries agroalimentaires qui ont amené les bouillons en cuve, notamment Maggi, sur le terrain. Et cet apport de l'extérieur, donc ce changement, cette innovation pardon, apportée de l'extérieur a finalement entraîné un changement social, puisqu'aujourd'hui il n'y a quasiment aucune famille à Dakar qui cuisine sans ses bouillons en cuve et toute la façon de préparer a été modifiée autour de ça. Pas toute la façon, mais en tout cas ça a vraiment été intégré. J'en arrive à vous parler d'innovation et de tradition. Alors, sur un premier abord, l'innovation et la tradition, ça peut paraître un petit peu opposé, les deux termes, parce que l'innovation, on pense davantage à l'avenir, à la nouveauté, alors que la tradition, on pense plutôt aux anciens, au passé, etc. Et finalement, quand on se penche un petit peu plus sur la question, on voit que ces deux notions sont très liées, parce que la tradition, elle se lie à travers les discours, l'intentionnalité, mais c'est quelque chose qui est toujours en mouvement, qui se construit à travers les acteurs, chacun y apporte quelque chose, en tire quelque chose, et donc c'est vraiment, finalement, on peut presque dire que la tradition, elle se construit par innovations successives. Et d'un autre côté, il y a des traditions qui peuvent être, des pratiques traditionnelles qui peuvent être la base d'innovation, pour être adaptées au contexte actuel, au contexte local. Donc il y a vraiment une interaction entre ces deux concepts, ces deux notions. Ce qui m'amène à parler de patrimoine et de patrimonialisation. Finalement, l'innovation dans le cadre de la patrimonialisation, elle permet de renverser le rapport à la tradition qui, au lieu d'être opposée à la modernité, en devient une composante. C'est-à-dire que pour rendre plus modernes certaines pratiques traditionnelles et permettre de les intégrer au patrimoine, on va utiliser des innovations sur ces pratiques traditionnelles. En fait, c'est remettre au goût du jour certaines pratiques. Alors on a par exemple à Dakar le riz qui a été intégré, donc on peut appeler ça une innovation intégrée par les colons, qui n'était pas forcément très consommé auparavant. Et finalement, il a été, les habitants se le sont appropriés, ça a été adapté avec les techniques traditionnelles de cuisine, et pour aboutir au riz au poisson qui est maintenant le plat national, donc on peut dire qu'il est complètement intégré au patrimoine alimentaire sénégalais. Donc ça c'est un exemple. Alors, je vais maintenant parler des déterminants locaux et globaux donc, qui ont entraîné certaines innovations, en commençant par rester toujours sur le changement. Et j'ai juste précisé qu'on voit que le changement peut être soit impulsé par le haut, soit impulsé par le bas. Alors pour ça, je fais une comparaison avec la sociologie des organisations, qui eux, quand ils traitent d'innovation, parlent davantage de l'innovation qu'on peut appeler par le haut, c'est-à-dire que c'est davantage les gens qui sont en haut de l'échelle de la hiérarchie qui vont proposer, voire imposer certaines innovations, et ensuite, ça peut être les employés ou les salariés, vont éventuellement adopter finalement cette invention et qui pourra devenir ou non une innovation. Mais on voit aussi qu'il y a d'autres situations où le changement vient finalement des populations, des groupes d'individus, et va être par la suite adopté, donc on pourra finalement appeler ça une innovation, donc vraiment par le haut ou par le bas. J'en viens directement aux déterminants, en commençant par les déterminants que j'ai appelés globaux, donc qui dépassent un petit peu le pays du Sénégal et la ville de Dakar, avec tout d'abord la pression démographique qu'on voit aujourd'hui sur notre petite planète. On est 7 milliards d'individus, la nature, elle, n'est pas extensible, donc on a une forte pression démographique sur les ressources naturelles, et donc ça s'applique aussi au Sénégal, en plus de s'appliquer sur le reste de la planète. Enfin, voilà, il n'y a pas d'exception pour ce pays-là. Est-ce que je développe un petit peu? Je pense que j'ai le temps. Donc c'est vrai que sur ce point-là, Malthus prédisait déjà en 1852 qu'on aurait des difficultés à nourrir l'ensemble de l'humanité si on continuait sur cette pente-là, parce que pour lui, on a une croissance exponentielle de la population et une croissance linéaire de la production alimentaire, ce qui fait que à un moment donné, les courbes s'éloignent l'une de l'autre, et ça, c'est le déficit en alimentation pour nourrir la population. Bon, jusqu'à aujourd'hui, l'histoire ne lui a pas tellement donné raison, mais la question se pose vraiment aujourd'hui de savoir comment on va pouvoir nourrir l'humanité. Aujourd'hui, certains prônent une augmentation de la production, d'autres experts, notamment Guillou, Léridon, de Marcilly, tout ça, insistent sur le fait que la production apparaît presque suffisante aujourd'hui pour nourrir les 7 milliards d'hommes que nous sommes, mais que c'est un problème de répartition. Bon, après, qu'en sera-t-il quand on sera 9 milliards comme les prédictions le prévoient pour 2050? Ça, c'est encore une autre question. Donc bon, je ne vais pas m'attarder plus que ça, c'est une question très complexe, mais en tout cas, le Sénégal et Dakar sont impliqués dans toutes ces problématiques. Par ailleurs, Dakar est un pays qui est très dépendant de l'extérieur pour beaucoup de choses, et y compris pour l'alimentation, donc qui dépend énormément du marché mondial de l'alimentation. Et ce qui fait que toutes les crises dont on a entendu parler dernièrement, notamment la crise des prix en 2008 sur le marché alimentaire mondial, ont énormément d'impact sur les populations dakaroises. Et bon, il y a eu notamment, comme dans d'autres villes dans le monde, mais des émeutes de la faim en 2008. Pour passer aux déterminants locaux, je vais commencer par le marché du poisson, puisque finalement ça c'est un peu à l'intermédiaire, c'est aussi très lié à l'extérieur et au marché mondial justement, mais ça reste une question locale. La filière de la pêche au Sénégal connaît de nombreuses difficultés aujourd'hui, alors il y a de moins en moins de poissons dans les eaux sénégalaises, dû notamment au changement climatique, mais également à la surpêche. Et puis il y a une forte politique d'exportation, c'est en ça qu'il est très lié avec le marché mondial, et du coup il y a de moins en moins de poissons sur les étals à Dakar, et le poisson est de plus en plus cher, donc ça va entraîner des changements dans l'alimentation. À côté de ça, comme déterminant local, il y a aussi de nombreux discours qui se développent autour de l'alimentation à Dakar. Alors il y a trois types de discours, le discours médical, enfin j'en ai identifié trois en tout cas, il y en a sûrement plus, mais le discours médical, le discours médiatique et le discours que j'ai appelé populaire. Alors le discours médical, il prône la diminution de la consommation de sucre, d'huile et de sel, et il a été développé suite à l'augmentation significative des maladies non transmissibles liées à l'alimentation, que sont le diabète, l'hypercholestérolémie, etc., l'hypertension artérielle. Et donc face à l'augmentation de ces maladies-là, les médecins et le corps médical diffusent des discours qui tendent à modifier l'alimentation dans ce sens-là.
Alors, j'ai pu constater que ces discours-là atteignent principalement les personnes les plus éduquées et les personnes atteintes qui sont directement en contact avec le corps médical sur ces sujets-là. Ensuite, on a un discours médiatique. Alors là, c'est davantage des industries agroalimentaires en fait, qui diffusent leur publicité à travers différents types de médias. Ça peut être des publicités affiches, des publicités à la télévision, mais aussi des émissions télévisées qu'ils subventionnent et du coup qui deviennent finalement, on peut dire, des publicités géantes. Alors il y a quelques années, il existait des émissions qui étaient financées par Nestlé notamment. C'est eux qui détiennent le groupe Magie aussi, donc toujours sur les bouillons cubes. Mais c'était des émissions presque éducative en fait. Ils faisaient une recette et après ils en discutaient, ils voyaient comment l'améliorer sur le plan nutritionnel notamment, etc. Aujourd'hui, ces émissions-là sont arrêtées et ont été remplacées finalement par des émissions effectivement culinaires, mais où il y a le tas de cubes à côté, c'est marqué Magie partout. Enfin, finalement, là on est vraiment sur une publicité géante, quoi. Et c'est tous ces discours médiatiques, enfin en tout cas véhiculés par les médias de publicité sur la margarine, il y a les mêmes types de publicité, ont beaucoup d'influence sur les populations. Et enfin, le troisième discours donc, que j'ai appelé populaire, c'est le discours qui est véhiculé par les étrangers et les migrants de retour au pays et qui véhicule plutôt les normes, la norme de minceur par exemple, les normes qu'on peut voir plus globalement dans le reste du monde, et donc qui influence les gens et notamment qui les incite à faire des régimes amincissants, etc. Donc voilà, face à ces trois discours, à la multiplicité des discours qui peuvent être parfois contradictoires, les habitants doivent s'accommoder de tout ça et prendre des décisions face à leur alimentation pour maintenir une certaine cohérence identitaire aussi à travers l'alimentation. Et enfin, je ne vais pas y revenir trop longuement, mais Dakar, c'est une ville, comme je le disais en introduction, très complexe. J'ai appelé ça melting pot. En fait, elle s'est construite avec l'arrivée des colons, notamment, qui se sont installés sur un quartier à la pointe de la presqu'île, puisque Dakar est une presqu'île, sur le quartier qu'on appelle le plateau. Puis ça s'est diffusé ensuite, et très vite, il y a eu un attrait pour les populations rurales qui venaient chercher un emploi, une possibilité d'immigrer, etc. Donc finalement, c'est une ville qui regroupe des gens d'origine de toutes les régions du Sénégal, et du coup il y a une certaine multiplicité, une diversité culturelle. On a un vrai brassage des modèles alimentaires, puisque les populations de différentes ethnies, de différents niveaux socio-économiques se rencontrent, se croisent, parfois se rencontrent, etc. Donc voilà. Donc tous ces déterminants, aussi bien locaux que globaux, vont avoir une influence sur les modèles alimentaires et vont notamment pouvoir provoquer des innovations. Donc j'arrive finalement presque à la fin de ma présentation. Pour vous présenter les innovations, j'ai essayé de les classer, donc innovation produit, innovation pratique, innovation discours. Alors, pour moi, les innovations produits, elles concernent principalement la substitution d'un produit par un autre. Donc par exemple, au Sénégal, avec les difficultés de la filière de la pêche dont je vous parlais tout à l'heure, on voit que certaines personnes vont remplacer les poissons nobles. Donc par exemple, il y a le tiof, c'est une sorte de mérou qui était très valorisé pour préparer le fameux riz aux poissons dont je vous parlais tout à l'heure, le plat national, et qui aujourd'hui est remplacé par des petits poissons appelés poissons de pauvre qui sont pas du tout valorisés parce que les gens s'adaptent. Et donc voilà, ça c'est une innovation. Il y a également la substitution toujours du poisson par du poisson séché. Voilà pour les innovations produits. Les innovations pratiques, elles considèrent davantage les modifications d'organisation de l'alimentation, de manière un peu plus pratique en fait. Donc il y a des questions de quantité, de répartition temporelle, etc. Donc on a par exemple la diminution de la quantité du poisson dans les plats, la diminution de la quantité d'huile. On a parfois la suppression de certains repas, c'est souvent le repas du soir ou le petit déjeuner. Et alors, il y a une étude d'Abdou Salam Fall qui a montré récemment qu'en banlieue de Dakar, il y avait une nouvelle façon de gérer les difficultés. C'était la mutualisation des ressources pour la préparation des repas. C'est-à-dire que plusieurs ménages, alors parfois de la même famille, mais d'une famille élargie, ou même des voisins, se mettent ensemble, mutualisent leurs ressources pour réussir à préparer un repas pour tout le monde. Ça permet de faire des économies d'échelle. Et enfin, l'innovation discours, les innovations discours qui désignent les changements perceptibles à travers les discours des enquêtés et qui renvoient à une modification des normes, mais pas toujours ou pas encore, ça c'est une question plutôt, à une réalité des pratiques. Alors, comme modification dans les discours, on voit par exemple la perception autour du thé sénégalais, qui est un thé très sucré, très fort, il est des 3 thés, on trouve ça dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest.
Et donc, il est vraiment très sucré. Et donc, face au discours médical, il commence à être un petit peu décrié. Certaines personnes vont dire, ah non, moi, le thé, j'en prends plus. C'est... Enfin, en tout cas, ils vont dire, le thé, c'est pas bon, etc. C'est la même chose pour les bouillons en cube. Beaucoup de personnes, dans leur discours, disent que c'est pas bien. Et autour du riz au poisson, qui est quand même, y a pas mal de bouillon en cube dans la recette. Enfin, en tout cas, souvent, ils en mettent beaucoup. Il y a beaucoup d'huile aussi. Donc, c'est un plat qui peut être décrié. Et finalement, un peu dévalorisé dans le discours. Mais alors moi, la question que je me pose face à ça, c'est est-ce que ces évolutions de discours sont les prémices d'évolution des pratiques ? Ça, pour l'instant, j'ai pas encore la réponse. Et donc, pour répondre, et tenter de répondre à cette question-là, et puis à d'autres encore qui restent avec des points d'interrogation sur mon sujet, dans les prochains mois, je vais réaliser ma phase qualitative d'études, et donc je vais faire je vais faire des entretiens individuels accompagnés d'observations sur le terrain, d'observations de phases d'approvisionnement, de préparation et de consommation. Et je voulais juste préciser en conclusion que sur le terme d'innovation, de changement alimentaire, d'adaptation, de modification des pratiques, sur toute cette thématique-là, c'est intéressant de regarder aussi, d'approcher ça en ayant en arrière-plan les concepts d'équivalence symbolique et fonctionnelle qu'a développé Fischler notamment, parce que ça permet, chaque changement peut être vu en termes d'équivalence, c'est-à-dire qu'il va y avoir une équivalence symbolique, une équivalence fonctionnelle. Donc par exemple, les gens qui, par exemple en termes de fonctionnel, on remplace le mil par le riz ou le riz par le mil, c'est des céréales tous les deux, donc au niveau fonctionnel, d'un point de vue nutritionnel, il y a une équivalence. Donc de voir ça en ces termes-là, ça permet finalement d'ouvrir la thématique sur les rationalités des mangeurs et donc d'aborder aussi l'aspect plus identitaire de l'alimentation. Donc c'est ce que je vais essayer de faire aussi dans la suite du travail. Et je vous remercie de votre attention.
Merci.
Organisateurs d'avoir accepté ma communication. Donc effectivement, je travaille sur Tlemcen. Tlemcen qui est une ville située en Algérie, actuellement en Algérie, ici, donc à 60 km à peu près de la frontière marocaine et également à 60 km des côtes méditerranéennes. Et c'est une ville qui devient la capitale d'un sultanat entre le 13e et le 15e siècle, le sultanat Abdelwazid, qui est donc pris entre guillemets en tenaille entre deux autres sultanats, le sultanat Mérinide avec comme capitale Fès et à l'est le sultanat Afside avec pour capitale Tunis. La ville de Tlemcen a été l'objet d'un intérêt particulier par l'historiographie et ce dès l'époque coloniale en raison évidemment du statut qu'avait l'Algérie dans le cadre de la colonisation française, mais également de l'important patrimoine architectural de la ville. Les premiers travaux pourtant qui concernent Tlemcen n'ont pas été réalisés, donc pour l'histoire de la ville, n'ont pas été réalisés par des historiens, mais des acteurs de la colonisation, donc qui ont été maires, préfets, etc. de Tlemcen, et par la suite par des historiens de l'art, qui ont quand même montré, donc les plus connus et qui restent aujourd'hui encore la référence pour les travaux sur Tlemcen, ce sont les frères Marcet, qui ont montré que la ville de Tlemcen connaissait un essor à partir du XIIIe siècle. Cependant, ils ne sont pas intéressés aux origines et aux fondements de cet essor. Il me semble que cet essor doit être directement rattaché ou en tout cas mis en perspective par rapport au commerce transsaharien, puisque Tlemcen constitue un débouché de ce commerce et que l'étude de ce commerce transsaharien permet un petit peu de modifier la chronologie qui avait été envisagée par ces auteurs-là. Effectivement, ces auteurs, donc mon objectif c'est de me centrer sur... expliquer plutôt comment s'est développé, comment s'est mis en place l'essor économique de Tlemcen au XIIIe, XVe siècle, en prenant en compte que cet essor ne commence pas comme ça tout d'un coup au XIIIe siècle, mais qu'il a en quelque sorte une préhistoire qu'il convient d'expliquer. Donc l'historiographie, deux mots sur l'historiographie pour comprendre un petit peu le contexte et justement les points sur lesquels il faut revenir. D'une part, Tlemcen, donc il y a cette historiographie d'époque coloniale qui systématiquement considère, pour expliquer l'essor de la ville, que Tlemcen a été un acteur passif et que donc ce sont uniquement des facteurs externes qui expliquent l'essor de la ville. Donc deux types de facteurs souvent sont mis en avant, soit l'essor de la ville est expliqué par le commerce que les Européens développent à partir du XIIIe siècle avec la ville, ou autre explication, c'est le déclin de l'Ifriqiya, donc l'Ifriqiya hein, qui est la zone ici, à l'est donc, du Maghreb, aujourd'hui en gros la Tunisie actuelle. Donc à chaque fois, Tlemcen, un acteur totalement passif. Par ailleurs, le rôle qu'a pu jouer le commerce transsaharien avec l'essor de Tlemcen est très peu envisagé. Pourquoi ? Parce que il y a un réel cloisonnement en aire géographique de l'historiographie, c'est-à-dire que les spécialistes de l'Afrique subsaharienne travaillent sur l'Afrique subsaharienne et s'intéressent assez peu au Maghreb, encore que un petit peu, mais pas du tout à la Méditerranée. Donc, du coup, à chaque fois, il n'y a pas un échange complet, alors que ces échanges finalement se font du Sahara jusqu'à la Méditerranée, avec finalement au centre ce Maghreb et une ville comme Tlemcen. Et enfin, ce commerce transsaharien a été abordé surtout à partir de certains mythes historiographiques qui se sont développés concernant ce commerce transsaharien. Premier de ces mythes qui a été depuis remis en cause, c'est celui du commerce silencieux. Donc ce commerce qui concerne essentiellement d'ailleurs l'or, donc ça aussi c'est un point qu'il faut remettre en cause parce que ce n'est pas le seul produit qui était acheminé lors de ce commerce. Un commerce silencieux donc sur lequel finalement on aurait pu ne rien savoir puisque les partenaires n'auraient pas échangé. Donc tout ça ce sont des points qui sont aujourd'hui en train d'être de nouveau étudiés et qu'il convient de prendre en compte. Même chose, deux mots sur les sources qu'on peut utiliser pour cette étude. D'une part, il y a de plus en plus... Une nouvelle approche des sources qui se développe, qui met l'accent sur la nécessité d'historiciser le discours de ces sources, puisqu'il s'agit surtout aussi de s'interroger, non pas sur quand on prend en compte les récits de voyageurs, il ne s'agit pas seulement de s'interroger sur le fait si le voyageur, par exemple Ibn Battuta, a réellement été en Afrique subsaharienne, etc. Ce qu'il s'agit de voir et de comprendre, ce sont les représentations que lui véhicule à travers ce discours et non pas la réalité de son voyage. Donc ça c'est un premier point, donc des évolutions méthodologiques qui sont assez importantes récemment et qui convient donc de prendre en compte. Et surtout la nécessité d'utiliser tous les types de sources disponibles et de ne pas se cantonner uniquement à un type de source. Je m'explique, effectivement pour la période 9e-12e siècle nous avons uniquement des sources arabes, donc des écrits géographiques très majoritairement jusqu'au XIIe siècle. Puis après, nous avons des récits de voyageurs, donc, dont le grand voyageur Ibn Battuta. Et évidemment, l'histoire des Berbères d'Ibn Khaldoun. Donc l'historiographie s'est essentiellement basée sur ces sources arabes-là, donc, qui sont un point de vue particulier, celui des auteurs arabes, ce qui introduit forcément un biais qu'il convient de compenser justement en quelque sorte en utilisant d'autres types de sources. Le problème c'est qu'effectivement ces sources sont un peu plus tardives, donc à partir du 12e nous avons donc des sources européennes, donc dans les archives européennes. Et puis à partir du 15e siècle essentiellement nous avons des responsables rabbiniques, donc qui sont des questions qui sont posées aux rabbins et qui répondent donc et qui nous informent aussi sur ce commerce. Évidemment, l'historien aussi a fait appel à des archéologues et depuis les années 70, des fouilles sont développées sur des sites importants, donc notamment initiées par Jean de Vis donc, sur le site d'Aoud Auguste, mais ces fouilles continuent, notamment sur un site comme Tijil Mansa, qui est extrêmement important, notamment pour mon sujet. C'est donc dans ce cadre historiographique avec ce type de sources qu'il convient d'analyser d'une part le lien étroit qui existe entre l'histoire de Tlemcen et le commerce transsaharien, et dans un second temps je verrai donc que Tlemcen est un carrefour commercial entre Sahara et Méditerranée. Donc pour comprendre l'essor de Tlemcen en lien avec le commerce transsaharien, il apparaît en effet que la mise en place de la domination des tribus zélètes à partir du milieu du Xe siècle, dans le contexte de l'opposition entre Omeyyades et Fatimides, donc les Omeyyades qui sont situés en Andalous, les Fatimides qui sont au niveau de l'Ifriqiya, donc au Burkina Faso sur cette carte, donc l'Ifriqiya qui est ici, les Omeyyades dans l'Andalous qui sont ici, vont effectivement s'affronter ici, donc dans tout le Maghreb central, notamment pour contrôler ces espaces-là. Et vont s'appuyer donc sur les tribus zénètes. Donc tribus zénètes qui vont dominer la région de Tlemcen notamment, mais qui vont aussi progressivement descendre vers le sud et arriver à contrôler les routes commerciales, avec la conquête notamment de deux villes importantes sont des points d'achèvement des caravanes, donc qui sont Tijil Mansa ici d'une part, et Taher qui ne figure pas sur la carte, qui est ici plus à l'est. Toute cette région va être contrôlée par les mêmes tribus, ce qui va leur permettre justement de contrôler les routes commerciales en provenance du sud. Et en effet, c'est à cette même période que Tlemcen est décrite pour la première fois comme capitale du Maghreb central et point de réunion pour les marchands de tous les pays, donc par le géographe arabe Al-Bakri. Qui montre donc que l'acquisition de Tlemcen, que le fait que Tlemcen devienne un carrefour commercial est étroitement lié à la domination zénète sur Tlemcen et sur l'ensemble du territoire, ainsi que sur les routes commerciales qui viennent vers le sud. Ce contrôle des routes continue à la période suivante, donc c'est ce que représente pour vraiment la carte, c'est à l'époque almoravide, donc, puisque les Almoravides vont contrôler toute cette zone, c'est-à-dire depuis Alger, Tlemcen, effectivement, Tijil Mansa, qui est un point extrêmement important, j'insiste, et ensuite tous les débouchés du sud, pardon, donc avec ici Aoud Auguste, dont je parlais tout à l'heure, fouillé par Jean de Vis, Tombouctou et Gao. Donc tout. Les Almoravides vont contrôler tout cet espace, ce qui va renforcer encore le rôle de Tlemcen à ces époques-là. Cette chronologie un peu plus basse donc, que j'essaye de montrer n'a pas du tout été reprise par l'historiographie de l'époque, et notamment par Ibn Khaldoun, sur lequel se base finalement l'historiographie coloniale pour expliquer que Tlemcen se développe à partir du XIIIe siècle. Ou fin 12e, début 13e. En effet, il met étroitement en lien, donc je ne vais pas lire le passage, mais il met étroitement en lien l'essor de Tlemcen avec les guerres d'Ibn Khania, donc ici, qui ont lieu donc à la fin du 12e, début du 13e siècle, qui auraient provoqué la chute de deux villes, Arjboul et Taert. Tlemcen aurait récupéré donc tous les bénéfices de la chute de ces deux villes. Or, quand on regarde les sources antérieures à Ibn Khaldoun, on voit que ces deux villes ont connu un déclin avant la fin du XIIe, début du XIIIe siècle. Donc, qu'il s'agisse d'Arjboul et de Taert. Pour autant, ce passage d'Ibn Khaldoun est intéressant parce qu'il lit quand même, donc au niveau de la chronologie, ne me semble pas juste, mais par contre, il lit étroitement l'essor de Tlemcen avec ses deux villes. Et d'une part, effectivement, il apparaît dès le XIe siècle que Arjboul est considéré comme le port de Tlemcen. Donc c'est une ville, alors, pardon pour le retour en arrière, donc c'est ici, c'est une ville qui est, donc ici vous avez Tlemcen et ici vous avez Rajboun, donc ou Arjboul dans les sources arabes, donc c'est cette ville qui devient dans un premier temps le port de Tlemcen. Par la suite, nous aurons deux autres ports de Tlemcen, Unayn juste ici, et ensuite Oran, un port un petit peu plus éloigné, mais qui deviendront les deux ports principaux. Donc Arjboul qui devient le port de Tlemcen, et d'autre part Taert, qui qui est prise par les Fatimides dès 1909 et pour lequel j'ai mis l'hypothèse qu'il y aurait un vapeur du commerce transsaharien qui arrivait à Taert vers Tlemcen, ce que semble confirmer Al-Bakri qui nous parle d'un itinéraire entre Tlemcen et Ouargla, donc Ouargla qui se situe ici sur la carte, avec donc Taert qui serait ici qui ne figure pas, et donc on aurait un lien ici Tlemcen Ouargla. Et pas seulement donc une route de Tlemcen-Sijilmassa ou Tlemcen-Fidik, je vais y revenir dans un instant. Donc effectivement, en fonction des périodes, plusieurs routes qui se mettent en place. Donc rapidement, hein, juste les principales. Donc une première route de Tlemcen-Sijilmassa, donc à l'ouest, pour aller ensuite vers Oualata, plutôt Bouctou. Une route qui passerait plus par le désert, donc qui passerait ici par par Fidik, puis par le Toit, cette région qui est ici, avant de se diriger plus vers le sud, et ensuite une bifurcation plus à l'est, en passant par Ouargla, et qui rejoindrait ensuite ici le sud. Cette route notamment centrale connaît un développement à partir du XIVe siècle, bien que il semble qu'elle existait précédemment, mais c'est surtout à cette époque qu'elle apparaît dans les sources, et notamment dans les sources chrétiennes. Si j'arrive, voilà. Notamment dans les sources chrétiennes, donc, et dans les cartes que vous pouvez admirer en ce moment même à l'exposition à la BNF. Donc ces cartes qui, à partir du XIVe siècle, laissent apparaître donc l'étape des dans le Toit, donc au centre. Donc ici, vous avez Sijilmassa, qui est une oasis, donc c'est pour cela qu'elle est représentée comme ça, sous forme d'île. Et ici, si je zoome, donc vous avez Bouddha, donc qui est une oasis du Toit, qui représente une première étape pour aller vers le royaume du roi de Malti. Même chose, donc ça c'est une carte de 339. Ici, vous avez une carte de 375, donc de l'Atlas catalan, et donc on voit que la route se diversifie et que le Toit prend une importance encore plus importante, avec ici notamment l'oasis de Tabal Balet, pour arriver donc jusqu'au royaume du roi de Mali. Donc une diversification des routes, où Tlemcen à chaque fois est le pôle qui regroupe l'ensemble de ces parcours. Tlemcen est également, donc là plus rapidement deux mots, situé sur un axe est-ouest, donc là je parlais uniquement de l'axe nord-sud, situé sur un axe est-ouest, qui fait le lien entre Fès, en quelque sorte, ici, et Kérouan, ce qui a été ici schématisé par Dominique Valérian à travers donc, son étude des différents récits de voyage. Tlemcen donc apparaît comme un pôle commercial entre Sahara et Méditerranée dès la fin du XIe siècle. Pour cela, effectivement, il convient de s'intéresser aux acteurs qui participent à la mise en place de ce commerce. Et parmi ces acteurs, donc un des acteurs principaux, c'est évidemment le pouvoir. Le pouvoir qui a pour rôle, d'une part, d'assurer la sécurité des routes. Donc l'objectif pour ce pouvoir, donc pour le pouvoir Abdelwadid, si on parle de la période que j'étudie plus précisément, qui est le XIIIe siècle, c'est d'être en bonne entente avec les tribus qui peuplent les territoires qui se situent depuis Tlemcen jusqu'à Sijilmassa au moins. Et c'est en fonction de la bonne entente que ces pouvoirs ont d'entretenir avec ces tribus que le commerce va plus ou moins bien pouvoir se développer. Même chose, il ne s'agit pas seulement d'assurer la sécurité des routes pour arriver au sud du Sahara, il s'agit également d'assurer la sécurité de ces marchands une fois qu'on est arrivé sur place. Et c'est pour cela que les souverains entretiennent des relations étroites, donc les souverains du Maghreb, avec les souverains du Mali, même si effectivement nous sommes beaucoup plus documentés sur les Mérinides, donc qui ont leur capitale à Fès, que sur les Abdelwadites sur ce point-là, parce que c'est Ibn Khaldoun qui nous renseigne. Et enfin, dernier point, les souverains maghrébins manifestent un intérêt certain pour le commerce, et c'est le cas notamment d'une source qui nous donne un témoignage donc de Abu Amou, qui était sultan de Tlemcen, et qui affirme tout l'intérêt que son pays, sa région, avait à commercer avec le Sahara, commerce qui lui semblait beaucoup plus bénéfique que le commerce avec l'Europe. Par ailleurs, on peut également s'intéresser au réseau de marchands. Donc ces réseaux de marchands se mettent en place nous avons des exemples très concrets à partir du XIIIe siècle. Donc le plus connu est évidemment celui des frères Macari. Donc en deux mots pour résumer la façon dont s'organise ce réseau bien connu. Donc il y a deux frères qui sont à Tlemcen, qui réceptionnent les marchandises, qui les envoie d'abord à Sijilmassa. Là, il y a un autre frère qui, lui, les informe sur les prix, l'opportunité de réaliser telle ou telle transaction, et qui ensuite les expédie vers le sud, vers Walata, où se trouvent encore deux autres frères. Donc un véritable réseau avec des membres de la famille à chaque point clé du parcours, et donc une entreprise commerciale extrêmement, extrêmement développée. Nous avons d'autres exemples dans les sources arabes, notamment de marchands d'origine tlemcénienne qui sont présents dans les ports de Tlemcen et qui ont eu des relations, qui ont été en tout cas à Gao, à Tombouctou, etc. Mettant ainsi en évidence le rôle de plaque tournante qu'a pu avoir Tlemcen à cette époque. Et enfin, d'autres types de réseaux que l'on peut approcher pour le coup plus par les sources arabes qui, à part le cas des Macari et quelques mentions anecdotiques, sont assez fragmentaires, les réseaux de marchands juifs qui peuvent être étudiés à partir des archives européennes, donc que ce soit les archives de la couronne d'Aragon, mais également des archives italiennes, comme celle de la compagnie d'Attini de Prato, où on voit que ces marchands de Majorque viennent à Tlemcen, Tlemcen où ils ont des relais donc, qui sont juifs ou musulmans. Et ensuite, ces relais amènent les marchandises que ces juifs de Majorque ont apportées, eux-mêmes les transportent vers le sud, vers l'Afrique subsaharienne, pour les échanger. Donc, plusieurs sources, à la fois les archives européennes, mais également les responsables rabbiniques, puisque les juifs, par exemple, du Douat, jouent un rôle certain dans ces échanges commerciaux. Donc pour conclure, juste deux points importants me semble-t-il, c'est que c'est dès la fin du XIe siècle et non pas fin XIIe, début XIIIe que Tlemcen connaît un essor et devient un carrefour commercial, donc directement en lien avec la prise de contrôle des routes commerciales par les tribus zénètes, et que Tlemcen se constitue donc en pôle structurant, un pôle qui structure des réseaux marchands qui connectent en Sahara et Méditerranée des espaces qui ne doivent pas être considérés comme séparés, disjoints, mais au contraire caractérisés par une réelle connectivité favorisée par des acteurs multiples, donc à la fois le pouvoir mais également les marchands eux-mêmes. Merci pour votre attention.
On va pas trop mordre sur le porte-parole de la salle, mais il faut bien que nous justifions un peu l'avantage que nous avons eu à lire les textes avant vous. Donc, c'est juste pour dire pour quelles raisons nous avons pris le titre plutôt de Dynamique des sociétés urbaines dans leur complexité. Peut-être ce qui nous a frappé à travers tous les papiers, si on les considère dans leur ensemble, c'est que ces dynamiques ont été abordées dans un temps long, dans notre atelier en tout cas, depuis le XIe siècle jusqu'au très contemporain. L'autre point également qui nous a paru au sortir de ces différents papiers, c'est que les villes sont des lieux d'innovation, donc Hélène reviendra là-dessus tout à l'heure, et que ces villes frappent par leur cosmopolitisme. Je crois que ça c'est quelque chose d'important, à savoir la diversité des populations, les interactions entre les populations, la cohabitation des populations et la co-construction par les citadins, donc de différentes choses, dont la gestion par exemple des communes. L'autre point qui m'a aussi frappé en tant qu'historienne, c'est évidemment le fait que ces villes sont, ou ces sociétés sont connectées à l'étranger, sont connectés à l'étranger, et que ces connexions se voient, même dans les temps les plus anciens, dans ces routes dont profite Tlemcen et qui soudent en fin de compte, qui construit un espace économique depuis le Sahara jusqu'à l'Europe. On a un espace économique qui est fortement soudé. Peut-être également, L'autre point sur lequel j'ai été sensible, c'est que l'insertion, si vous voulez, de l'Afrique, enfin, a été ici analysée dans une perspective qui est vraiment afrocentrée dans les différentes communications. Je veux dire, par exemple, à travers l'itinéraire d'individus en Afrique, à travers l'itinéraire de familles. Alors, je terminerai peut-être sur un dernier point. Sur le plan de la méthodologie, je crois que là, nous avons, à travers les communications, une belle démonstration du fait qu'on parle d'études africaines, qu'on abandonne l'idée vraiment d'africanisme et que travailler sur l'Afrique exige, je suppose, que l'on travaille comme sur les autres terrains, à savoir on recourt aux mêmes techniques et il y a toute une ouverture sur d'autres aires culturelles, les usages de différents concepts comme innovation, comme gouvernementalité, etc. Et c'est en même temps aussi tout ce qui est très neuf dans ce que moi j'ai vu en tout cas dans les communications. Ce sont des textes qui s'appuient sur des enquêtes très précises, des entretiens semi-qualitatifs. Peut-être j'aurai des questions là-dessus, mais on va laisser ça aller sur la relecture des sources. Et moi, j'ai été très sensible à ce point, en tout cas. Alors, je m'arrête là pour ne pas trop mordre sur le temps de parole de la salle.
Très rapidement, moi, je parle en politiste et aussi en géographe et en urbaniste. Alors, du coup, effectivement, ce qui m'intéressait dans le centre de vos communications, c'est l'importance du cadre urbain, de la ville qui est une synapse et plutôt même un laboratoire de modernité. Et finalement, ça rend les situations un peu plus les dynamiques plus fortes et les situations un peu plus idéales typiques parce que c'est là qu'il y a vraiment une très grande multiplicité d'acteurs, que les choses se passent de manière plus rapide et que donc en particulier avec par exemple les innovations alimentaires, c'est probablement par Dakar qu'elles arriveront ensuite dans le reste du territoire sénégalais. J'ai été sensible également à la question de l'importation des modèles. Camille, quel sens de la formule, parle de domestication des normes globalisées. Alors j'aime bien la question de la domestication parce qu'il y a à la fois la question de l'endogénéisation et également la notion du combat avec la bête sauvage des normes étrangères qu'il faut pouvoir intégrer et pacifier. Et ça m'a beaucoup intéressée. Comme géographe, évidemment, ce qui me paraît très important pour ces analyses, c'est leur caractère à toutes multiscalaire. On est à différentes échelles et c'est l'articulation de ces échelles qui fait vraiment l'intérêt et le fond des analyses. On est effectivement dans des circuits mondialisés, enfin à rappeler. Finalement, le local de Diego Suarez me semble assez exogène puisqu'on est sur une ville qui a été presque créée avant d'être habitée, donc il y a une appropriation locale d'un cadre qui ne l'est pas. Tlemcen, ce qui me paraît important, c'est effectivement qu'elle soit à la fois un carrefour, mais que tout ça se voit également dans ces paysages. C'est ce qu'on voit un petit peu mieux dans le papier que dans la présentation, bien évidemment. Il y a le cosmopolitisme de Dakar en particulier. Je finis en disant aussi que toutes ces communications nous rappellent, c'est la politique qui parle, l'omniprésence du politique et de l'idéologie. C'est très intéressant de voir que toutes, d'une certaine manière, remettent en cause l'allant de soi, c'est-à-dire le déchet, c'est sale, mais non, pas que, ça peut parfois être ostentatoire. L'eau, ça doit être communautaire, les pauvres doivent participer, mais ça, c'est une construction idéologique et non un allant de soi. Vous avez également fait ça en relisant les sources de Tlemcen, en disant que, en remettant en cause la manière dont elle s'est construite, et avec la question de la nourriture, alors soi, c'est ce qui est bon pour soi ou ce qui n'est pas bon, et là évidemment tout ça c'est construit, et on est vraiment dans l'idéologie, et le pouvoir politique, les questions politiques se cachent dans les déchets, et les déchets. sujets sont effectivement très, très politiques et l'idéologie se cache également dans la nourriture. Ça, c'est des choses qui me paraissent, des points qui me paraissent importants. J'ai des remarques à faire sur les papiers qu'on pourra peut-être faire après et on va prendre vos questions pour pouvoir amorcer le débat.
Si vous n'avez pas de questions, on en a.
Une question pour Jennifer qui a un ancien étudiant. Il me semble qu'au niveau des pratiques culinaires, il y a quand même des disparités. C'est pour moi aussi, j'ai bugué, mais non, c'est bien ça. C'est une disparité au niveau des catégories sociales et du genre. J'imagine que la question du poisson trop cher ne touche pas les catégories les plus aisées de la table. Du coup, est-ce qu'elle continue le siècle habituel où on peut modifier certaines choses? Et à l'inverse, sur la question du genre, les modèles de minceur, etc., du peu que j'ai vu un petit peu à la cave, les gens jouent sur des registres différents. Chez les hommes, ce sera beaucoup par la pratique du sport, pas forcément par l'alimentation. Et chez les femmes, ça passera notamment par la réduction de la portion ou de l'huile ou des choses comme ça. Ensuite, bon, c'est pas du tout mon domaine de recherche, je ne sais pas grand chose, mais je reste un peu sur ma fin en ce qui concerne les représentations de la nourriture. Il y a des choses, le fait qu'on consomme beaucoup de poissons à la gare est sans doute bien sûr lié au fait que ce soit un grand port. Cotonou, par exemple, qui est aussi un grand port, il y a très peu de maquis qui proposent du poisson. C'est vraiment la viande comme un truc hyper symbolique où on mange de l'animal. Ça me fait penser un peu à ce qu'il y avait Roland Barthes qui avait écrit un truc sur le steak saignant, la manière dont les Français le mangent, etc. Et quelle signification ça a au niveau de qui mange quoi, en fait. Ouais. Est-ce que vous avez vu, au niveau des rapports sociaux et des rapports de genre, déjà des différences dans les pratiques?
On va pas vous laisser répondre tout de suite, on va prendre un ensemble de questions et puis on va faire un full rosette.
Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est à qui mange quoi? Je me demandais sur votre méthodologie, enfin, qui sont les publics? Parce que justement sur le modèle de la minceur, j'imagine que ça touche pas tout le monde, la loin de là. Tout le monde ne peut pas innover dans cette pratique alimentaire pour être mince. Bon, on ne peut pas être sensible à la minceur tout simplement, parce qu'on se remplit le plat de leur préoccupation quotidienne, j'imagine. Et voilà, et quelle est votre méthodologie? Comment est-ce que vous avez parlé de 22 entretiens, vous avez parlé de carnet de santé, carnet alimentaire, comment vous allez entreprendre votre prochaine enquête? Est-ce que vous voulez aborder différents publics ou est-ce que c'est plutôt une entrée par une catégorie en particulier? Est-ce que vous allez catégoriser justement comment?
Question?
Votre question?
Oui.
C'est une question pour vous. Parce que moi-même, je suis de Dakar, donc ça m'intéresse spécifiquement ce que vous avez posé. Et je suis d'accord sur beaucoup de choses que vous avez développées. Je travaille sur les questions de santé. Et par rapport à l'alimentation, il y a forcément un lien. Mais ce que je voudrais vous suggérer, c'est d'essayer de voir, par exemple, à Saint-Louis, et comparer un tout petit peu, pas peut-être dans votre travail, mais savoir que c'est peut-être dans ce que vous allez faire, pour être plus proche de la réalité, en fait. Parce que c'est pas trop de temps que vous vivez à Dakar pour votre travail, mais il faudrait vraiment y être, comprendre dans la profondeur ce que vous voulez faire. Parce que la question de l'alimentation, c'est quelque chose qui est... On ne peut pas étudier en un mois, par exemple, mais il faut mettre ça dans la vie. C'est pas une question, mais
c'est une remarque très utile. Je pense qu'on va profiter de notre statut pour poser nous-mêmes quelques questions. Moi, j'ai évidemment une des choses à dire à Émilie, hein, c'est le fameux lien entre gens qui font de la... de la rudologie, comme on dit, pour faire propre. Je vous en ai déjà parlé, moi j'ai cette question du problème de la définition entre déchets et assainissement, et surtout parce que vous ne décrivez pas, même dans votre papier, la structure institutionnelle.
professionnelle des villes et finalement quel est leur degré d'autonomie. Moi j'ai travaillé sur une capitale, donc c'est assez différent parce que on a beau décentraliser Ouagadougou, ça reste une capitale qui est, et donc le gouvernement a un intérêt direct à intervenir dans la question des déchets. Moi, qu'est-ce qu'il en est de ces deux patelins du nord camerounais? Donc ça c'est une première question, je peux la poser, mais je vous laisse la parole. L'autre question était pour Camille. Dites qu'il y a cette substitution, c'est très intéressant de vous en parler à la fin de vos propos. Et on aimerait bien savoir comment se fait le processus d'intégration au niveau des individus. Comment ils finissent par être convaincus de la norme internationale, mais par quoi est-ce que les gars au niveau de la municipalité, par exemple, deviennent... Qu'est-ce qui les convainc et pour quelle raison ils se laissent convaincre? Ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait.
Juste pour revenir sur la question sur pour Émilie, dans la présentation, je ne peux pas tout faire, c'est un mondial, mais juste pour savoir, par curiosité, pourquoi vous avez choisi de comparer deux villes et pas étudier simplement Garoua ou simplement Marois?
Oui, d'accord. Oui.
Je voulais bien savoir si dans votre contexte d'étude, vous intéressez aux déchets en tant que source de richesse dans le sens de la récupération. Parce qu'il y a des études de gestion des déchets où les déchets alimentaires peuvent être source de richesse par les gens qui s'adonnent à la récupération.
C'est bien. À vous et puis à vous.
Oui. La question s'adresse à Émilie. Tout à l'heure, elle parlait de consommation de la fraction des cires. Qu'à l'époque, quand on lance des chiffres, on se met des déchets, mais pas juste parce que, compte tenu de la réalité africaine, la sorcellerie et tout ça, et bien que la ville a évolué, la population de même, c'est la décision de prendre la route des villes africaines. Peu importe l'évolution, l'éducation, les populations connaissent, elles le jouent. Ni garde du série, est-ce que les descendants de ces chefs, de Garoubi, de Marwa, continuent toujours à penser, ou bien à affirmer, ou bien à conserver cette série, que les ancêtres continuent à dire qu'on ne peut pas jeter les déchets. Et avec, vous avez parlé vers 2008, avec l'installation, probablement apportée, passer de la vie lumière à la vie poubelle, bon, vous voyez, vous avez montré du moins qui est vraiment désagréable actuellement. Et quelle est la réaction des descendants de ces chefs vis-à-vis de la gestion des déchets? Parce que vous avez...
D'accord. À vous.
Une question pour Camille. En fait, j'aimerais bien que tu reviennes sur la question des djihamas, parce qu'il me semble que quand même c'est une. Société d'État, et à Madagascar, la gestion des eaux, quand même, ça reste un élément de l'État, et du coup, j'aimerais bien savoir sur la proportion entre cette gestion communautaire et des germains, dans la gestion des eaux.
Oui, ben, je vais prendre une autre question. Bon, sans ça, je vais enchaîner, hein. Je vais aussi profiter de mon statut. Bon. Moi, je trouvais que dans la communication de Camille, enfin, la question des usages du Foukounoul, pour être un peu entre matkachologue, est tout à fait intéressante. Et la question que je te pose, est-ce que dans ce discours aussi, pour recréer un peu cette communauté utopique qu'est le Foukounoul, est-ce qu'on utilise votre concept, qui est le concept de Fiaval, que les Malgaches utilisent beaucoup pour montrer qu'il y a un lien qui se crée, et est-ce que des étrangers arrivent à utiliser ça? L'autre point que j'aurais aussi voulu savoir, quels sont les âges des personnes que tu as interrogées? Est-ce que les jeunes ont la même position, par exemple, que des gens qui ont connu l'eau au moment où l'eau était gratuite? Est-ce que ça, c'est un gros problème de faire accepter par la population que l'eau n'est plus gratuite? C'est bon pour moi. Et moi, j'aurais voulu revenir sur un historien, sur Clemsen, tout disiez à juste titre qu'on parle beaucoup de l'or, du sel, et vous suggériez qu'on laisse de côté la question du cuivre, par exemple. Bon, j'aimerais quelques informations là-dessus, ou la circulation de l'anatrola. Il me semble que c'est tout à fait important, la circulation de l'anatrola du sud vers le nord, de même que des esclaves. L'autre point peut-être que j'aurais aimé, sur lequel j'aurais aimé avoir des informations, étant donné mon ignorance crasse, c'est tout ce que vous dites sur les sources que sont les responsables. Là, je suis bien curieuse de savoir de quoi il s'agit.
Et j'ajoute à cette question, est-ce que on parle de juifs arabophones à ce moment-là dans l'Aragon et tout ça?
Bon, ce sont quelques idées, et puis bon, je sais pas, on se donne quand même, il est moins 10, on se donne 5 minutes, on se donne encore 20 minutes.
Profite pour café, hein. Chacune
des intervenantes aura, disons, 5 minutes maximum pour...
4, si vous voulez voir quelque chose.
Bon, d'accord. Ben allons-y, on commence par la droite.
Ouais, ça va être assez rapide. Je vais commencer par préciser. Ça fait un an que je vis à Dakar et j'y retourne la semaine prochaine. En fait, j'habite là-bas. Donc ça va me permettre justement d'appréhender l'alimentation sur le long terme et sur le quotidien surtout. C'est l'objectif, c'est pour ça que j'y reste là-bas. Et pour la comparaison avec Saint-Denis, alors ça me paraissait un terrain énorme de faire une comparaison. Déjà, Dakar, il y a énormément de choses à dire, beaucoup de complexité, beaucoup de paramètres à prendre en compte. Effectivement, il y a l'âge, le socio-économique, il y a le genre, il y a les ethnies aussi, comme dans beaucoup de terrains. Voilà. Mais par contre, effectivement, notamment en termes de santé, je me tiens au courant et il y a des enquêtes épidémiologiques qui ont été faites par le professeur Abdulkan sur les maladies non transmissibles, justement, et donc je suis en train de tenir compte de ça malgré tout, même si je ne peux pas moi, enfin, je ne prévois pas en tout cas de faire un terrain là-bas. Et du coup, ça permet de rebondir sur l'échantillonnage et le choix. Alors, sur mon terrain exploratoire, qui était en fait mon stage de Master 2, j'ai fait un peu, j'allais dire comme j'ai pu, ça faisait assez peu de temps que j'étais à Dakar, et finalement, j'ai pris les gens qui ont accepté de répondre. Donc il n'y a pas eu de sélection, seulement c'était entre 18 et 55 ans, j'ai essayé d'avoir autant d'hommes que de femmes, et j'ai essayé de diversifier les niveaux socio-économiques. Voilà, et après par contre j'ai pris les gens habitant à Dakar qui acceptaient de répondre. Et pour la suite, ce que je prévois, c'est de cibler sur un quartier, et ensuite effectivement de tirer les fils, pareil, donc j'ai eu des contacts avec les délégués de quartier, donc le quartier c'est Waka, ceux qui connaissent un peu Dakar, c'est un quartier pareil qui est... très diversifié, il y a tous les niveaux socio-économiques, il y a beaucoup d'ethnies différentes. Donc c'est l'intérêt du quartier, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Et donc oui, je vais essayer de prendre contact avec les différents délégués de quartier, que me mettre en contact avec des gens, puis avoir d'autres sources aussi, aller discuter avec les commerçants, enfin voilà, essayer de diversifier les approches pour avoir un maximum de diversité dans mon échantillon. Pour l'entretien, et l'objectif... normalement, si tout va bien, ça serait de faire un terrain quantitatif, un questionnaire par la suite. Et donc là, c'est pareil, ça reste à déterminer si je reste à Wakam dans les différents quartiers de la commune de Wakam, de la commune d'arrondissement de Wakam, ou si j'élargis à plusieurs quartiers dans Dakar. Enfin, ça, c'est pas encore déterminé. Et alors, pour l'effet du genre, bon, alors sur la minceur, vous êtes toutes les deux revenues sur l'idée de minceur, j'en ai parlé parce que c'est ressorti. Mais pour l'instant, je n'ai pas énormément travaillé dessus et je n'ai pas rencontré énormément de gens qui font réellement des régimes. En fait, c'est dans les discours, il y a ce discours-là qui est présent. Après, l'impact, c'est ce que je disais, c'est le décalage entre le discours et la pratique. Il y a beaucoup de gens qui en parlent. Après, des gens qui le font vraiment, j'en ai rencontré quelques-uns, mais pas non plus. Donc pour l'instant, je ne peux pas encore dire grand-chose là-dessus. Par contre, les régimes sont souvent associés à la santé, et ça, par contre, le discours santé ressort presque systématiquement quand on parle d'alimentation, en fait. Autant chez les hommes que chez les femmes. Les hommes sont très sensibles à ça, ils vont dire que le type gagne, le fleuri ou le poisson, il ne faut plus le manger le soir, etc. Enfin, bon, voilà. Donc, il y a un...
Donc, concernant les produits échangés, donc, effectivement... croissance démesurée apportée à l'or et au sel. Donc, des travaux récents donc, ont mis en évidence à partir de l'étude d'archives européennes. Donc, c'est surtout à partir de ça que je me base. De l'échange de cuivre. Donc, ce sont les travaux de Noël que j'ai cité en géographie pour l'avenir. Et également, donc, ce cuivre qui est échangé avec les Vénitiens. Donc, ça, c'est assez intéressant parce que finalement, Tlemcen n'est pas considéré comme un port, contrairement à Bougie, par exemple, qui vraiment a des contacts très étroits avec les Vénitiens. Tlemcen est un peu marginalisé, si vous voulez, et pas considéré comme le port qui a beaucoup de relations avec, avec les villes italiennes. Or, au XVe siècle, fin XIVe, XVe siècle, il y a toute la mise en place des galères vénitiennes donc, qui longent la côte, et donc il y a aussi des arrêts à Tlemcen. Et effectivement, en étudiant les archives de la compagnie d'Attigny, elle va montrer que le cuivre jouait un rôle assez important par l'intermédiaire de Mallorca. Donc en fait, si vous voulez, les relations entre Tlemcen et les villes italiennes sont médiatisées par Mallorca. Donc ça, c'est un premier point. Il y a effectivement d'autres travaux comme ceux de Ingrid Ousai qui doit publier sa thèse, qui va être publiée dans les mois qui viennent, donc j'attends beaucoup de pouvoir la lire parce qu'elle n'est pas disponible en France pour l'instant, qui étudie toujours ces archives d'Attigny de Prato et qui, elle, travaille particulièrement sur... a assez insisté sur les ports de Tlemcen que sont Unain et Oran. En principe, c'est essentiellement Unain qui joue ce rôle de relais entre Majorque et ensuite l'Afrique subsaharienne. Et donc là, effectivement, elle montre aussi la diversité des produits, notamment la noix de Gola, mais aussi les plumes d'autruche, d'autres produits qui sont échangés et qui apparaissent dans ces sources-là qui avaient été négligées jusqu'alors. Concernant les responsables rabbiniques, alors le problème qui se pose effectivement d'utiliser une multiplicité de sources, c'est le problème de la langue, parce que je ne maîtrise pas tout déjà. J'essaye d'à peu près maîtriser l'arabe. Mais, donc effectivement, il y a les juifs arabophones, donc c'est le judéo-arabe. Donc c'est des textes qui sont écrits, alors c'est pas le cas des responsables, hein, mais des textes qui sont écrits en arabe, mais en caractère hébraïque. Donc ça effectivement, ça existe tout à fait. Pour les responsables, ils sont écrits en hébreu. Donc ce sont essentiellement des responsables du XVe siècle qui ont été un petit peu utilisés par Michel Abipol, donc déjà par un auteur, je ne comprends pas la chose, qui a mis en évidence quelques-unes de ces responsables, mais il me semble qu'il y a une richesse qu'il faut exploiter, que je n'ai pas encore exploité parce que je
ne maîtrise pas. Et elles n'ont pas été retraduites après en US, en Chine?
Il y en a quelques-unes qui sont, que j'ai retrouvées qui sont en anglais. Ouais. Mais pas du tout en totalité.
Non, mais c'est pas un truc façon Tolède qui aurait traduit après derrière.
Non.
C'est un nom un peu latin, c'est pour ça que vous posez la question de savoir en quoi ça peut être écrit, traduit. Et...
Non.
D'accord.
Donc ça reste des sources en hébreu. Avec quelques traductions en anglais, mais assez vite.
D'accord.
Merci.
Voilà.
Alors, je vais essayer de faire une petite question sur
la question. Beaucoup fait content, donc là maintenant d'ailleurs,
voilà. Sécher l'assainissement, donc oui, rapidement, en fait, d'un point de vue, on va dire, institutionnel ou de structure, c'est essentiellement la gestion des déchets qui m'intéresse, puisque la gestion de l'assainissement au centre des eaux usées, elle est quasiment inexistante. Il y a 2-3 caniveaux qui ont été construits dans les centres-villes, mais à part ça, il n'y a pas de système de boue. La seule chose qu'il y aurait, c'est éventuellement des services d'hygiène qui, de temps en temps, ont fait des tournées pour rejoindre les gens à faire des pizzas, etc. Donc, par contre, en revanche, si on regarde du côté des pratiques populaires citadines, je considère aussi tout ce qui est substance corporelle. Donc là, forcément, extrêmement urine, ce qu'on qualifie d'obusé, j'essaie aussi de porter attention. Structure institutionnelle, ça sera un petit peu long à aborder là.
Non, enfin,
mais je vais me faire de l'autopromotion, mais j'ai un article qui vient de sortir dans Politique africaine, et toute la première partie elle explique justement la structure institutionnelle de la gestion, comment elle évolue, etc. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est de Garoua et Parois, c'est une bonne question. Parce que, en bonne anthropologue, moi j'avais commencé à travailler sur Garoua en Master 2, et c'est un peu sur l'injonction de mon co-directeur en thèse que j'ai été voir du côté de Marois. Et en fait, c'est très pertinent parce que c'est deux villes qui ont sensiblement la même histoire, puisque c'est deux villes qui ont été fondées par des pouvoirs peu, qui ont été des centres de circonscription coloniale, qui maintenant sont des capitales de région. Après, ce qui est intéressant, c'est que l'une et l'autre révèlent des points plus saillants de cette évolution de la région. par exemple, cette histoire de royaume chalique, ça n'existe pas à Garrois. C'est quelque chose qui est propre à la plaine du Diamarais, donc spécifiquement à Marois. De la même façon, la puissance du pouvoir Peul sur ces histoires de gestion des corps, c'est sans doute plus saillant à Marois, parce que c'est une ville qui a la réputation d'avoir été un lapida plus prestigieux. Un lapida, c'est une structure de Peul. En revanche, après, au niveau de l'indépendance, et là c'est plutôt Garrois qui prend de l'ampleur, comme c'est la vie du premier président. Et alors, à la hauteur de son ampleur et la profondeur de sa chute ensuite, avec donc la crise et puis aussi l'arrivée au pouvoir de Poulpilla, qui dégage à Lidjo. Donc voilà. Donc de ce point de vue-là, c'est assez intéressant, c'est pas toujours facile à faire tenir. Ensuite, je pense que du déchet comme source de richesse, c'est la grande façon à la mode d'appréhender le déchet en ce moment, c'est-à-dire par les cycles de récupération, de recyclage, etc. Alors évidemment, moi je m'y intéresse puisqu'on est dans des contextes où tout est largement récupéré. Je crois que j'avais essayé d'évaluer, mais il y a à peine 400 grammes de déchets par jour qui est produit par un ménage. Et c'est de l'ordre essentiellement de sable, de petits résidus de cuisine, etc. Après, moi, il me semble que finalement, la notion de déchet, elle se dilue dans cette approche-là, parce que le déchet, c'est ce qui n'a plus de valeur ni d'usage. Et donc là, justement, ce qui reste vraiment déchet à l'issue de tout ça est très limité. Et d'un point de vue, en tout cas, symbolique, et moi, j'y trouve encore un certain usage, puisque là, ça devient, dans certains contextes, un symbole de richesse, d'avoir ces restes qui sont encore exposés. Donc en fait, je m'intéresse forcément à la récupération, tout ça, mais j'essaie aussi de développer les autres aspects. Et pour ce qui est de la conservation des déchets par les chefs, ça c'est une question intéressante, parce que oui, l'idée c'est qu'en fait, il y a tous ces registres dans la façon de penser le déchet qui s'empilent au fur et à mesure de l'histoire, mais qui ne s'écoulent pas. Et de fait, la crainte de voir ces déchets récupérés à des fins de sorcellerie, elle est toujours très très forte dans ces deux villes actuellement, et encore plus forcément chez les chefs, ne serait-ce que parce qu'on est en position de pouvoir, donc on a plus à peine à se faire marabouter, comme on dit, à partir de ces déchets. Et il s'avère que du coup, jusqu'à l'amido, le chef traditionnel de Garrois, a toujours gardé un grand tas d'ordures dans sa concession, et il n'a accepté qu'avec l'arrivée de la société de collecte d'évacuer ses déchets avec deux éboueurs qui sont connus. On connaît les CV, ils rentrent par une porte à l'arrière, ils sont complètement contrôlés, et le lamido de Marois à ce jour n'a toujours pas accepté de sortir les déchets de sa concession.
Ok. Voilà. Camille, pour finir.
Alors, pour finir, peut-être pour répondre à votre question, parfois sont convaincus mes acteurs malgaches des normes internationales, ça dépend de leur génération. Ça répond aussi un peu à la question. Alors, pour les responsables, en tout cas, de ces politiques ou les responsables communaux, ça dépend de leur génération. Et moi, j'ai abandonné la perspective de reconstituer les bonnes raisons d'agir de chacun. Le maire de Diego Suarez, il est musulman. Il a fait ses études de droit en Chine. Il a 40 ans, il est ingénieur et je sais pas, il y a eu deux femmes, il y a une petite entreprise. Si je vois, je me demandais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de lui, motive sa façon d'appréhender, est-ce que telle ou telle décision, je m'en sortirais pas. Donc,
je comprends.
Et par contre, ce que j'observe, c'est à quel point certains ont des discours extraordinairement marqués dans un sens, et des actions qui vont dans un sens, et d'autres dont je vécu leur discours. Voilà, et pour revenir sur l'âge des personnes interrogées, Farah, je pense que vous faites appel aussi à l'âge du côté plutôt des usagers, plutôt.
Oui, des usagers.
Là, alors, j'en ai déjà parlé aujourd'hui, des usages dans une même perspective de culture matérielle et de la mentalité, pour le coup, je travaille sur des gens de toute génération. Par contre, la mémoire de nous gratuite, elle se transmet de génération en génération. et elle se transmet à travers le souvenir. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est transgénérationnelle, cette mémoire de nous gratuite, et elle est classe sociale, je dirais, parce que tout le monde est à l'eau gratuite. Même les gens qui étaient raccordés. Dans leur propre foyer, on avait des raisons pour lesquelles on allait prendre de l'eau gratuite, notamment pour la Saint-Pierre. Et puis, c'est pour se laver dans le soir, évidemment, on utilise le robinet à la maison quand on a. Voilà, parce qu'il peut intéresser un peu tout le monde. Et pour revenir sur la question d'usage du cliamine, les étrangers. conceptualisation. Très rapidement, il y a des cadres à Tana, des cadres sociologues, des vrais sociologues à Tana, moins réellement sociologues, mais plutôt s'il y a des sociologues Tadeo, qui sont en charge des textes, de la mise en récit des programmes, avec un patin après le cadre français, Romis, Corrige. Chacun s'occupe de sa partie intermédiation avec le mariage et intermédiation avec les structures fêtières du programme. Et il semble que sur la notion du phénomène, à Diego Suarez, il faudrait vraiment que je travaille sur l'occurrence par contre là dans les usagers de l'eau, dans tous les domaines dans lesquels j'ai travaillé. En fait, ce qui ressort beaucoup plus que le Fiamen comme concept, c'est le Firamunina et le Firamias. La capacité des gens à travailler ensemble et à s'entendre, ça, comme si c'était plus important. Évidemment, ça a à voir avec des valeurs, mais comme si c'était plus important, la pratique. Mais on pourrait travailler sur le rapport. Et je vais vous dire, on va y aller sur le même.